bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast des Time Slips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez eu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Die Hard, Belle Journée pour Mourir. I learned them all on the radio, yippee-i-yo-ki-yay. Petit tour de table pour commencer. Vous voyez tous les problèmes de communication dans les Die Hard, que ce soit avec les téléphones coupés qui empêchent d'appeler du renfort? Et bien lui, je pense que soit il aurait trouvé une solution entre deux temps en trois mouvements, soit il serait resté dans un coin, popcorn en main, et aurait empiré peut-être les choses. Je parle bien entendu de Grégoire.
Waouh.
J'ai envie de crever.
Bonjour.
Non, c'est pas faux.
Coucou. Alors, Die Hard, en un mot, qu'est-ce que ça t'évoque?
Grenoble. Évidemment.
Ah, d'accord. Il aurait pu préparer tous les cocktails Molotov et les appeler cocktails Molotov, que ça aurait pu passer, parce que comme dit le dicton, plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Je parle bien entendu de J-Boîte.
C'est moi. Salut.
Alors, Die Hard 5, qu'est-ce que ça t'évoque, en un mot?
Yippie-ki-yay-yay.
Oh oui. Grande aficionada de cette saga, je ne peux m'empêcher de penser à elle comme d'une buddy parfaite pour notre cher John McClane, digne remplaçante de Zeus, je parle bien entendu d'Elisa.
Oh wow, merci.
Bonjour.
Alors, Die Hard 5, qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, deux mots, gros nawak.
Son talent d'imitateur n'est plus à douter, et il aurait également pu jouer le troisième ou quatrième frère caché des deux Allemands des Die Hard 1 et 3, et ainsi être un méchant un peu plus emblématique que ceux du 5. Je parle bien entendu de Thomas.
C'est là que je dois faire l'accent.
Oh non.
Merci.
Du coup, à part l'accent
chose.
Allemand, Die Hard 5, qu'est-ce que ça t'évoque?
L'aphasie.
Ça veut dire quoi?
C'est la maladie qu'a Bruce Willis qui ont fait des manques de communication et tout ça, l'impossibilité de communiquer.
Ce qui est un peu gênant pour un acteur.
Ah, c'est un peu énervé.
Ouais, mais...
Et enfin, sa rigueur aurait pu forcer l'admiration de Hans Gruber à tel point que celui-ci regrette, durant sa chute mortelle, de ne pas l'avoir contacté. Je parle bien entendu de Eric.
Yeah, bonjour.
Alors, Die Hard 5.
Family, pour revenir sur une autre saga.
Et du coup... Celle qui vous présente cette saga, ou du moins ce film ce soir, c'est moi, Victoria. Et le mot pour résumer ce que j'ai pensé de Die Hard 5, Bumble.
Bumble.
Parce que j'étais devant pendant tout le film. Je me suis moins fait chier en scrollant. Et sinon les gens, c'est quoi votre rapport avec ce film et avec la licence Die Hard en général?
Ouais, alors du coup moi Die Hard, j'avais vu le 4 quand j'étais petit et je l'avais bien aimé. J'ai du coup revu le... Enfin j'ai découvert le 1 quand Eric nous a dit qu'on allait faire Die Hard 5.
Chance.
Et ouais, et j'ai beaucoup aimé. Je voulais faire le 2-3 avant de me mater le 5, mais j'ai pas eu le temps. Et donc j'ai fait un truc très drôle qui est que, pour déconner, j'ai demandé à ChatGPT de... Si, attends, tu vas comprendre. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer le 2, puis le 3, puis le 4. Et à la fin, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te résume le 5 aussi? Et je dis, non, non, lui, il faut que je le voie. Et du coup, ChatGPT s'est foutu de ma gueule.
Ah ouais.
Ouais. Ok.
Moi j'ai découvert le 5 pour l'enregistrement de ce podcast. En vrai ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir, parce que je sais qu'à l'époque où il est sorti en salle, j'avais été très tenté, parce que moi j'avais beaucoup aimé le 4 que j'avais vu en salle à l'époque. Et, mais en même temps ça sentait, au vu des bandes annonces, ça sentait mauvais et je l'avais loupé. Donc du coup voilà, c'est ma découverte. Et sinon bah, Die Hard, moi c'est un des... probablement une des sagas de films que j'ai le plus regardé dans mon enfance, surtout le premier et le troisième, les deux de McTiernan.
Donc moi la licence Die Hard, bah, j'adore, clairement, j'adore Bruce Willis aussi. Je trouve que c'est rare une saga qui donne autant un aperçu chronologique de la carrière d'un acteur dans le temps, notamment bah, Piège de Cristal, c'était vraiment son premier vrai film qui a créé sa carrière véritablement en 88, qui l'a fait rentrer au panthéon de la pop culture. Donc moi j'ai toutes les répliques encore dans la tête, je les fais assez régulièrement et c'est vraiment rentré dans la légende. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là il était très peu connu, c'est vraiment ce qui a lancé sa carrière et qui a tout changé pour lui. Et je trouve que du coup bah, moi j'ai regardé Belle Journée pour Mourir pour le podcast, je l'avais pas vu à l'époque, je pense que j'avais dû voir le trailer et de me dire oula, ça sent pas bon, et je crois que j'avais clairement raison, parce que clairement pour moi ça coïncide avec la fin de sa belle carrière malheureusement et le début de la déchéance, donc c'est assez triste.
Pour moi il s'agit du premier film Die Hard que j'ai vu,
C'était au cinéma avec mon daron. Voilà. Donc j'ai commencé cette saga par ce très grand film dont on reparlera. Ensuite, je sais que j'avais découvert le 4 que j'avais dû voir à la télé. Puis ado, j'avais vu le 1 que j'ai adoré et que j'ai revu plusieurs fois derrière. Et c'est vraiment que l'année dernière que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un 2 et un 3 aussi. Et du coup, j'ai complété ma saga l'année dernière en vraiment découvrant les deux derniers. En fait, finir, on va dire, la première trilogie qui est considérée comme la partie la plus meilleure de la saga. Mmh. Mais en même temps, avec ce que, vu que j'ai commencé par le pire, je ne pouvais que continuer par le meilleur.
Mmh. Et moi, bah, j'ai quelques années de plus que vous, donc du coup, j'ai vraiment grandi. Le premier est sorti quand j'avais 9 ans, donc je ne l'ai pas vu non plus au cinéma, mais je l'ai très vite vu à la télé et revu à chaque fois qu'il passait à la télé. J'ai vu tous les autres au cinéma dès qu'ils sont sortis. Et les trois premiers, je les ai beaucoup, beaucoup regardés. Du coup, un gros attachement à Bruce Willis, un gros attachement à la série Die Hard.
Mais sinon, on va commencer par mettre un peu de contexte. Eric, je t'en prie.
Die Hard 5, alors déjà, il faut le resituer rapidement dans la saga. Pour ceux qui connaissent absolument pas la saga, bah, le premier film, c'était le premier film de Bruce Willis, et c'est ça qui a lancé sa carrière. Le principe du premier Die Hard, c'est qu'il est enfermé dans un énorme immeuble. C'est la raison pour laquelle on appelle ça piège de cristal. Et d'ailleurs, c'est un flic de Brooklyn qui débarque d'un seul coup à Los Angeles, qui connaît absolument pas la ville le soir de Noël, et qui se retrouve à devoir résister contre une prise d'otage qui finalement en fait s'avère être un peu plus compliqué que ça. Je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le premier, qui est un film absolument incroyable. Le premier et le troisième sont considérés vraiment comme étant des chefs-d'œuvre du cinéma d'action hollywoodien. Le principe a eu tellement de succès que ça a été repris dans plein de films, ça a lancé toute une mode. Il y a eu Die Hard dans un bateau, c'était Piège en haute mer avec Steven Seagal. Dans un bus plus ou moins speed, c'est en partie inspiré de Die Hard. Dans un avion, il y a eu Passager 57 avec Wesley Snipes, Air Force One aussi. Et encore, là, je parle uniquement des films qui sont sortis à peu près dans les 10 ans après le premier Die Hard. Donc, si on continue sur plus loin, il y en a vraiment des dizaines. Dans un train, il y a eu Piège à grande vitesse. Broken Arrow aussi, qui est un très bon film de cette époque, qui est un peu oublié. Si vous aimez les films d'action aujourd'hui, il y a une bonne partie des films d'action qui viennent de Die Hard. Et ça a lancé la carrière de Bruce Willis. Pour les plus jeunes qui connaissent pas forcément si bien que ça, Bruce Willis. Il a tourné avec les plus grands, il a tourné avec Tarantino dans Pulp Fiction, il a joué avec Terry Gilliam pour L'Armée des Douze Singes, il a joué avec Shyamalan dans Incassable et Sixième Sens, qui sont considérés comme le très haut du panier du réalisateur, il a joué dans Sin City, dans Armageddon, dans énormément de films en fait qui ont marqué le cinéma d'Hollywood de cette époque. Et ce qui était particulier chez Bruce Willis, je parle au passé, il est encore vivant, mais il a arrêté sa carrière suite à des problèmes de santé, je crois que c'était en 2022.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est un mec qui est en même temps musclé, mais pas énormément musclé à la façon de Schwarzenegger ou de Stallone de la grande époque. Il joue beaucoup sur son bagou, donc il a un côté très populaire, mais en même temps assez classe en fait. Et ça lui donne un côté, des personnages qui souvent se ressemblent un peu et qui sont en même temps forts en gueule, mais en même temps avec une espèce de réserve et de classe un peu prolo, un peu ouvrière qui est super intéressante. Donc la saga Die Hard, c'est ce que disait Elisa, c'est que ça l'a suivi du coup pendant toute sa carrière. Le cinquième épisode, pour revenir là-dessus, il a eu un budget de 92 millions de dollars, je crois que c'est uniquement pour la production, c'est hors frais marketing. Et il a fait un retour financier de 300 millions, donc on peut se dire que c'est le triple, donc ça va, mais en réalité, il faut au minimum le triple pour rentabiliser, donc a priori, ça a été à peine rentabilisé. Et au-delà du succès financier, là où ça a vraiment été catastrophique, ça a été sur la réception publique et critique. On est sur un pur film de studio, c'est-à-dire que Mark Tiernan s'est considéré comme un vrai auteur, Arlen, celui qui a réalisé le deuxième,
oui.
Aussi il a mené ses propres projets. Même le 4, en réalité, il a été réalisé par le gars qui a fait toute la série les vampires contre les loups-garous avec Kate Beckinsale.
Underworld,
c'est ça, donc c'est le mec d'Underworld, donc c'est pas
ça, c'est
foufou.
Du cinéma d'auteur, ça.
Ah, moi j'adore Underworld.
C'est pas foufou, mais au moins c'est son truc à lui, quoi. Et le 5 par contre pour Die Hard 5, ils ont pris un pur yes man qui a à peu près rien fait avant, qui a à peu près rien fait après. Et c'est un gros problème en matière de réalisation.
Il a fait que des remakes et des films de commande, notamment l'horrible Max Payne qu'il fait juste avant Die Hard.
Et c'est le Yes Man par définition.
Des Russes, John McClane Jr. et un troisième bras, Die Hard, Belle Journée pour Mourir, c'est parti.
Alors, le film s'ouvre sur un écran noir. L'image suivante, c'est celle d'un écran de télé sur BBC World News, dont la présentatrice nous dit que les autorités russes se préparent à des manifestations massives à Moscou. Donc, manifestation qui vise à s'opposer au procès de l'ancien milliardaire Yuri Komarov. Procès qui, selon la présentatrice toujours, a généré de grandes dissensions dans la population russe, dont une partie pense que l'un serait en fait une manœuvre politique orchestrée par le candidat à la défense, Viktor Chagarin. On nous fait donc comprendre avec énormément de subtilité que c'est un méchant. On suit de dos un mec en costume auquel on ouvre une grille qui donne sur une immense pièce avec une cellule cage au centre dans laquelle est enfermé un mec qui lance « Que veux-tu, Victor ?» On comprend qu'il s'agit de Chagarin, donc le fameux politicien, qui vient voir Komarov dans sa prison et qui lui demande en russe « Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu comptes faire demain ?» Ce à quoi Yuri Komarov, donc celui qui est enfermé dans la cellule, lui répond d'un air décidé et pas effrayé du tout « Je suis prêt à payer pour mes fautes, et toi aussi tu devrais t'y préparer. » Et malgré le fait que Komarov soit en prison, on comprend tout de suite qu'il a la main sur son adversaire, qui a l'air de bien serrer les fesses pour une raison qu'on ignore à ce moment-là. Donc Chagarin dit à Komarov qu'il pourrait parler comme des gens civilisés, et que Komarov pourrait retrouver sa vie d'avant s'il oublie ce stupide procès. Mais c'est ballot, Komarov il s'en fout, il dit qu'il veut pas de sa vie d'avant. Là, Chagarin tente de le menacer en lui disant qu'il ne le laissera pas ouvrir la bouche et que tout le monde lui appartient dans ce tribunal. Komarov lui répond, bien sûr, « Sauf moi ». Et là, Chagarin appuie la tête contre la grille dans un geste un peu désespéré. Les crédits commencent à s'afficher, puis on change de plan sur une image aérienne du quartier général de la CIA. Une nana marche d'un pas pressé dans les couloirs et interpelle un mec à galons dans une salle, qu'elle appelle Mike, en lui disant que Chagarin passe à l'action pour Komarov. Il lui brandit ce qui semble être une sorte de une de journal en russe montrant Chagarin, et le dit Mike de la CIA demande donc « On a notre agent sur place ?» Alors, cette réplique, c'est très con parce qu'elle dure une microseconde, elle peut aisément être zappée par le spectateur inattentif alors qu'en fait, elle est importante pour comprendre. Et du coup, bah, on comprend pas, et il sort de la pièce en courant. Alors là, attention, ça va être une avalanche d'alternance de plans, donc faut suivre. Surtout au début d'un film où on sait absolument pas encore qui est qui. Surtout quand ils ont des noms russes. Donc, on retourne à Moscou de nuit, puis vu embarquer sur le côté d'une moto de course, puis autre plan sur une camionnette qui se gare, conducteur tort, et ressemble à un espèce de McLean version Wish. Avec les cheveux rasés, le conducteur de la camionnette se trouve au téléphone dans une cabine téléphonique. Il raccroche, puis il sort et se dirige vers ce qui a l'air d'être une boîte de nuit. Autre plan serré sur le motard qui a enlevé son casque et qui, au vu du gros plan sur son hug dans le pantalon moulant en cuir, est une motarde. Ce que confirme le plan élargi suivant est le fait qu'elle dézipe son haut de combi de cuir tout en rejetant ses cheveux en arrière pour que rien ne bloque la vue.
Alors ça, effectivement, quand elle ouvre sa combinaison de cuir et qu'on voit qu'elle est en soutif en tu... curieusement, peu importe la version du teasing ou de la bande-annonce, ce plan-là, il est toujours dans la bande-annonce.
Exactement, tu as tout à fait raison, incroyable. Instant male gaze. Donc on retourne sur le conducteur de camionnette, donc le fameux McLean de Wish, qui enlève sa veste de pseudo-livreur. Oh, c'était une couverture, donc on rechange de plan pour passer sur la biatch, hein, désolé, on va l'appeler comme ça pour l'instant parce qu'elle n'a pas de nom, qui s'est mise en robe et talons et s'avance donc vers Chagarin, donc le politicien méchant, qui sirote pépouze un petit verre sur sa terrasse de 150 mètres carrés avec vue. On change de plan, la porte s'ouvre et là, gros plan sur un cul de mec qui traverse une cuisine. Personne n'a l'air absolument choqué de voir le mec passer dans la cuisine, d'autant qu'il récupère au passage un gun posé sur le plan de travail qui semblait donc lui être destiné. Changement de plan, on retrouve l'habillage motarde, je vous dis, c'est très chiant, cette alternance de plans, c'est fatigant, et son oligarque qui se font des câlins, il a environ deux fois son âge en passant, mais ça c'est normal. Et elle lui dit que tout est prêt de son côté, et elle lui demande d'appeler. On rechange de plan, vraiment j'en peux plus, pour voir de dos le mec qui a récupéré le gun dans la cuisine rentrer dans la boîte de nuit, on voit son crâne rasé, donc on comprend que c'est le mec de la camionnette, le fameux McLean de Wish, et à ce moment-là, Chagarin dit à l'habillage « J'espère que tu ne me décevras pas ». Elle lui répond qu'elle ne l'a jamais déçu. On revient sur le McLean de Wish qui interpelle un mec dans la boîte en disant son nom. « Anton !» La caméra revient sur l'habillage et sur Chagarin qui passe un coup de tel à un certain Alik et dit « Il est temps de le choper ». Alors donc c'est très confus à ce moment-là du film. Puis le mec dans la boîte dit à Anton « Yuri Komarov te dit bonjour ». Anton se redresse entre ses deux biatchs, hein, classique, de son canapé, un peu surpris quand même, mais pas du tout stressé a priori. Puis le mec au crâne rasé lui dit en pointant sur lui son gun « Et il te dit au revoir !» Oh waouh, punchline. Et là, il lui met une balle dans la tête. Ensuite, un mec de la boîte lui saute dessus pour le mettre au sol.
Mais sur cette intro, là, on est vraiment sur le poncif quoi, du film d'action. Il manquait plus que les noms des lieux et les dates et heures en lettres qui font bip bip bip, qui sont écrits au fur et à mesure.
Oui, à la machine à écrire.
Ou voilà, ouais, en fait, t'as, quoi, ça dure 10 minutes à peu près, cette séquence-là d'intro. Ouais. Où en fait tout est fait pour que tu ne comprennes rien et que tout soit le moins compréhensif possible. Tu ne connais pas les personnages, tu sais pas quelles sont leurs intentions, tu comprends grosso modo qu'il y a deux acteurs en jeu principaux qui sont la CIA et Chagrin. Et bref, c'est... Bah déjà c'est cliché. Enfin pour le coup
on peut en parler tout de suite.
Et puis c'est pas Die Hard.
On peut en parler tout de suite. C'est que les précédents épisodes de Die Hard, à chaque fois l'histoire c'est soit une prise d'otage, soit un braquage. Là ils ont voulu faire autre chose, c'est que c'est un film d'espionnage. Et c'est un mauvais film d'espionnage.
Mais moi je trouvais que ça allait cette séquence alternée.
Moi j'ai trouvé dégueulasse.
Par rapport au reste du film, tu vois, j'étais en mode genre au moins c'est dynamique quoi.
Au moins il y a une meuf moulée dans du cuir quoi.
Et surtout en fait le film, je trouve déjà à ce moment-là au niveau de la manière dont c'est filmé, en gros c'est filmé épaule tout le film.
Ah, oui.
Très symptomatique des années 2010.
Très.
Et fin 2000 genre par exemple dans le genre action espionnage, la mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau et tout.
C'est-à-dire que ça vient à la base de Die Hard 3, c'est-à-dire que dans Die Hard 3 qui se passe à New York, littéralement McTiernan pendant les plans prenait son caméraman et il le secouait pendant que le mec tournait pour donner l'impression que c'était pris sur le vif par une espèce de caméra de télé en filmant les gars de l'autre côté de la rue pour faire des scènes d'exposition. Et ensuite ça a été repris dans plein de films, y compris entre autres par Jason Bourne qui est un peu devenu le nouveau modèle des films d'action. Je crois que c'était 2003, un truc comme
Le premier, ouais, ça a duré longtemps. Après, est-ce qu'il y en a eu 3-4 films?
Mais c'est surtout le premier qui a beaucoup marqué parce que...
J'adore le premier.
Il est très bien, mais c'est caméra à l'épaule et puis des scènes de combat qui sont beaucoup moins chorégraphiées, qui ont l'air beaucoup plus brutales et beaucoup plus réalistes que dans les films d'avant. Et ensuite, ça a été repris. Et simplement, les mauvais réalisateurs, ils ont juste retenu le côté « on va faire de la shaky cam de merde ».
C'est ça. Après, ce que je ne lui reproche pas, c'est que c'est pas de la shaky cam où tu peux pas suivre. C'est juste gavant parce que vraiment, même les scènes de dialogue, t'as la caméra qui bouge constamment. Je suis en mode « enfin gros, c'est un plan fixe, arrête de faire des hauts et des bas ».
T'as deux personnages qui parlent et je me souviens, dans 24 heures chrono, c'était relou, c'était la même chose. T'as deux personnages qui parlent dans une pièce, il faut que la caméra elle bouge dans tous les sens.
C'est ça. Mais pour les scènes d'action, par rapport à notamment le deuxième film de Jason Bourne, où les scènes d'action, tu ne peux pas les comprendre, parce que vraiment, j'ai juste l'image est floue, la caméra, elle fait des tours sur elle-même dans tous les sens. Pour le coup, sur celui-là, j'ai remercié le fait que la shaky cam n'était pas trop vénère non plus. C'est gavant, c'est vraiment le symptôme du cinéma d'action de l'époque, mais bon, c'est bon.
Scène suivante, cette fois-ci on revient aux États-Unis. On est dans un stand de tir de la police, donc on peut imaginer que c'est peut-être New York, puisque je crois qu'il bossait toujours là dans le 4, si je me souviens.
À partir du 3, il revient à New York. Ouais.
C'est ça, donc il est revenu à New York, il s'entraîne au tir. On voit que John McClane, puisque cette fois-ci c'est bien John McClane, c'est Bruce Willis enfin qui apparaît, il est toujours très bon au tir. D'un seul coup, il y a un de ses coéquipiers qui vient le voir avec un dossier à la main. Il lui annonce que ça y est, on l'a retrouvé, mais la situation n'est pas génial. Donc là, il y a un petit dialogue. C'est pas génial. Est-ce qu'il est à l'hôpital ou à la morgue? Et là, le gars lui répond, c'est pire. Il est emprisonné en Russie, à Moscou. Et c'est vraiment pas sûr qu'il s'en tire. Et donc, il continue de parler. Le dialogue d'exposition extrêmement mal branlé continue. Et là, on comprend que la personne qui s'est fait arrêter, qui était donc le mec qui a tiré dans la boîte de nuit, en réalité, c'est son fils.
Mais non.
Bon, en même temps, il faut expliquer. En réalité, la plupart des gens qui ont vu le film connaissent le principe, ils ont vu la bande-annonce, mais bon, faut bien expliquer à un moment que c'est son fils. Donc, on annonce que c'est le fils de John McClane, que visiblement, ça a été pendant longtemps un gamin à problème. Et que simplement la Russie c'est plus compliqué que les États-Unis. Alors attention, nouveau défi pour John McClane, cette fois-ci ça va se passer en Russie, il n'a pas l'habitude, les choses se passent différemment là-bas. Donc du coup John McClane récupère le dossier qui a été confié par son coéquipier. On le voit qui va à l'aéroport. Alors on parlait des versions qui étaient différentes. En réalité, dans la version que j'ai vue, tu le vois juste qui descend du taxi à l'aéroport. Je crois qu'il y a une version que j'ai pas vue où tu le vois discuter pendant 30 secondes avec sa fille, mais sa fille la amène juste en voiture jusqu'à l'aéroport et on la revoit pas de la suite du film. Donc en dehors du fait qu'elle fait un mini caméo pour montrer qu'elle existe toujours, bon, ça, je crois que ça apporte pas grand chose non plus quoi. Et donc McClane prend son avion pour partir vers le pays de Tolstoï, de Gargarine et de Gérard Depardieu, parce que oui, Gérard Depardieu est devenu russe, il a changé de nationalité. Je crois même plus qu'il ait une nationalité française, je crois qu'il y a annoncé.
T'aurais pu dire Karl Marx et t'as dit Gérard Depardieu.
Oui, parce que c'est la réalité de la Russie
mais
aujourd'hui.
Mais Karl Marx, il est allemand?
Je sais pas.
Non, bah oui, je suis nul. Bah oui, en plus, mais oui, il est allemand. Mais oui.
Ça sera l'extrait qu'on va utiliser.
Tu connais pas la nationalité.
Ah ouais, genre.
Moi, je lis, je regarde pas d'où ils viennent.
Oh là là. Mais parce
que tu es un vrai. Parce que si tu étais un vrai, tu dirais Karl Marx en allemand.
Oh le coco.
C'est le coco de Ouija.
Oh le coco de Ouija, c'est comme ça que je vais t'appeler quelque part.
Et donc, scène suivante qui est très rapide. Cette fois-ci, on retrouve Jack, donc le fils de John, dans une prison russe où il est interrogé. Et il parle en russe avec le mec qui vient pour l'interroger. Et il lui dit simplement qu'il est prêt à témoigner que Yuri Komarov, qui est donc le gars qu'on voyait emprisonné au début, lui a commandité le meurtre qui a lieu dans la boîte de nuit. Donc, autrement dit, il est prêt à témoigner pour faire... plonger ce mec-là dont on sait qu'il va bientôt être en procès et qu'il a un ennemi qui aimerait encore plus se faire plonger.
John arrive donc à Moscou et bloqué dans les embouteillages en taxi, il relit ses notes. Et il essaye de parler russe au chauffeur et je suis pas très sûr que c'était une bonne idée parce qu'il est pas très très bon en russe, clairement. Mais le chauffeur est choc-barre et en fait il pensait lui poser une super question et en fait il lui a demandé un sac de cheveux pour aller au tribunal. Ensuite, ça small talk avec le conducteur pendant un petit moment, ce qui malaise fort fort John McClane parce que c'est le chauffeur est gênant quoi, et quand il se met à chanter, j'étais autant mal à l'aise que John McClane, je pense. Et si j'avais pu, je serais sorti de la voiture. Et bref, c'est tellement bloqué là où ils sont que le taxi lui recommande de finir à pied. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, perso. Et il lui offre même la course parce qu'il a laissé chanter. Oui, donc le scénariste, il est jamais allé en Russie en fait, hein, qu'on se mette d'accord parce que.
Et ils insistent bien sur que la route bloquée là s'appelle Garden Ring. Ils insistent bien sur le terme Garden Ring. Et à un moment, tu vois, je sais plus à quel moment, je crois que c'est dans les bureaux de la CIA ou quoi, tu vois un plan de Moscou. Et en fait, c'est juste le périph de Moscou en gros.
Oui,
enfin, c'est voilà. Et c'est c'est toujours bouché Garden Ring à ce moment-là de la journée.
C'est bien.
Tous les trucs globalement sur lesquels t'as des gros zooms qui ont l'air d'avoir rien à voir, faut faire attention parce qu'il veut dire attention, ça va être important.
Non, je suis pas d'accord parce qu'ils font des crash zooms tout le temps, ils sont dégueulasses et ça veut souvent rien dire.
C'est vrai.
Et pendant ce temps, Jack lui est transféré au tribunal. John fait le trajet à pied et ne moufte même pas quand il traverse une manif où des policiers tabassent des manifestants.
Clairement.
Ok, donc effectivement, on est à Moscou. On entend donc les infos expliquer que la sécurité est renforcée car Komarov a plein de soutien et que du coup, c'est la merde. En arrivant, John voit son fils menotté, être escorté au tribunal et tu sens qu'il est un peu chafouin quand même parce que c'est son fils, c'est son fils, sa bataille, tout ça.
Ah yes. Merci.
Évidemment.
Jack et Komarov sont donc enfermés dans des boîtes en verre.
Ouais, mais ça c'est les cages de protection d'accusés, souvent dans les gros procès politiques et tout, c'est des trucs pour protéger les gens accusés parce que pourrait justement y avoir un attentat à leur encontre, des trucs comme ça.
Tout à fait. Le procès va commencer, mais pendant ce temps, des voitures louches arrivent vers le tribunal et passent la sécurité plutôt easy.
Ah ouais.
En fait.
Ouf.
Non, même très easy. Et pourtant, un groupe de gros méchants qui sont très méchants parce que ça se voit en fait, puis parce qu'ils sont russes aussi, mais ça se voit, font péter ces voitures en disant bon, c'est pas grave pour les conducteurs, de toute façon, comme ça on les payera pas. Oui.
Et je tiens à dire que le film il insiste bien sur le fait que John McClane il se rend compte de tout ça, tu vois.
Ouais.
Il y a vraiment ce truc où on a des gros yeux, où on le voit les yeux plissés qui va dans tous les sens et il est en mode genre là, on est vraiment dans la tête de John McClane, le flic qui voit tout ce qui va se passer, quoi.
On est un peu dans le John McClane du 2 quand il est dans l'aéroport et qu'il commence à voir des trucs louches en fait qui se passent. Et mais je trouve que ça marchait pas du tout là.
Non,
genre,
parce que
il a juste l'air perdu, quoi.
C'est ça.
Puis là en vacances.
Et il souffre du décalage horaire.
Ah, le jet lag.
C'est vrai que là c'est pas du tout logique parce qu'il aperçoit le bout d'un camion qui se gare, qui est genre à 50 mètres, alors qu'en fait le camion est vachement plus loin quand il roule, quand il arrive, donc ça fait aucun sens.
Et le camion profite donc de la cohue pour foncer vers le tribunal et rentrer armé jusqu'aux dents. Alors quand je dis rentrer dans le tribunal, c'est le camion rentre dans le tribunal. Et après ils sortent et ils prennent.
Sachant que c'est pas une petite camionnette, en fait ils ont fabriqué un camion militaire, mais un truc absolument gigantesque. Le truc, ça ressemble à moitié à un camion et à moitié à un bulldozer, tellement le truc est gigantesque. Quoi.
J'ai l'impression que c'est un peu les camions blindés des banques et des trucs comme
ça. Ça faisait un peu ça, ouais. Mmh.
J'ai hésité un moment, je suis allé chercher le modèle du véhicule parce que ça m'éclatait et j'ai complètement oublié.
Alors
parce
moi
que
j'ai trouvé
très con.
Dans les trivia d'IMDB et en fait ils ont pris un camion militaire et ils l'ont encore surblindé, donc c'est un truc vraiment qui a été fait pour le film et c'est vraiment un camion absolument génial.
Gros camion militaire.
Ça fait partie des quelques trucs qui sont sympas dans le film, c'est effectivement les véhicules, mais on y reviendra.
Il n'y a rien de sympa dans ce film. Arrête de te raccrocher à des
après,
choses
ça
comme
ça futiles. L'anecdote sur le fait qu'ils aient pimpé le camion militaire pour le film, ça me surprend pas du coup de l'apprendre là, parce que bon déjà ils le font dans tous les films, mais surtout ils insistent bien pour la scène de course poursuite qui va arriver plus tard, à bien filmer le camion, tu sais, ils le mettent bien en valeur, il est beau notre camion camouflage là avec le treillis bref.
Et les autorités font donc vider le tribunal suite à cet incident.
Donc exactement, grosse explosion dans le tribunal, de vilains mercenaires portant des masques à gaz sortent de leur gros camion militaire armé jusqu'aux dents et abattent les survivants à vue d'œil. Voilà, dès qu'ils voient quelqu'un qui bouge, boum. En parallèle, Jack attrape Yuri Komarov et le fait sortir du tribunal. Les mercenaires dirigés par la bimbo du début que je vais déjà nommer ici, qui s'appelle donc Irina. Et le chef des mercenaires, Alik, qui est l'homme de main principal, on va dire, du côté des méchants, n'arrive pas, du coup, à mettre la main sur le milliardaire russe. Ils se mettent donc à leur poursuite parce qu'ils doivent absolument retrouver un fameux dossier, fichier, ils changent tout le temps de mots, mais voilà, un fameux document que posséderait le milliardaire. John, quant à lui, est au milieu du mouvement de panique à l'extérieur du tribunal. Il a vu qu'il se passait des choses de louches et visiblement, il commence à se diriger vers l'arrière. Jack et Yuri volent une camionnette et Yuri s'interroge de qui il est, mais vous êtes américain, etc. Bref, ils sont brusquement arrêtés par John qui s'interpose devant le véhicule. Il demande à son fils de sortir de la camionnette pour taper la causette, vraiment en mode « Ah ben qu'est-ce que tu fais là ? Explique-moi, machin, etc. » Genre, vient d'avoir une explosion, il y a des mecs armés juste aux dents qui sont juste à côté, et en mode non mais faut qu'on discute hein. Voilà,
c'est vraiment genre je suis ton père, tu vas m'écouter.
Exactement, à ce moment là il y a Jack qui repère que les mercenaires sont pas très très loin, et au moment où son père essaie de lui attraper par la manche, il se retourne, sort son revolver, il dit à son père de se barrer, et il démarre en trombe parce qu'ils sont suivis de près par le fameux gros camion blindé des méchants qui manque d'écraser John, qui râle, qui pige que dalle et qui lui fait hey yo, que roule doucement, t'aggraves ton cas. Voilà. C'est lunaire,
c'est
mais c'est
des Simpsons, ouais.
C'est le début de la grosse, vraiment très grosse course-poursuite du film.
Donc, Junior s'enfuit en camionnette avec Yuri, tandis qu'ils sont poursuivis par ceux qui ont fait exploser le tribunal. John s'empare lui aussi d'une camionnette et se lance dans cette fameuse course-poursuite dans les rues de Moscou. Alors, petit aparté, c'est effectivement techniquement la scène d'action de ce film qui aurait nécessité 82 jours de tournage et se déroulerait sur l'équivalent du périphérique à Moscou qui est la M4.
Est-ce que c'est un truc où ils ont refait un set, parce que c'est comme Matrix où ils avaient refait toute une bretelle d'autoroute dans la campagne juste pour tourner des scènes de baston, c'est un truc comme ça, ou ils ont filmé vraiment dans la ville, ou tu sais pas?
Je sais plus, je crois qu'ils ont fui. C'est en République tchèque, je crois.
Ils ont fait aussi, ouais, République tchèque.
Et je serais surpris qu'ils aient reconstruit toute une bretelle d'autoroute comme Matrix, parce que en vrai, pour un die-hard, 82 millions de budget, il me semble.
Ouais. 92.
C'est pas énorme. Hein,
Si c'est ta scène qui te prend genre la moitié de ton tournage à faire, je sais pas.
Alors, je pense qu'ils ont fait un mix entre la Hongrie et la République tchèque, et pouf, ça fait une ville d'Europe de l'Est. Voilà. Et c'est donc cette superbe scène d'action que l'on m'a demandé de présenter, sachant que l'intégralité de la saga d'Ayard ne m'a fait ni chaud ni froid, et je me suis profondément fait chier devant cet opus. Donc c'est parti pour résumer cette scène de mon point de vue. Bim, paf, pouf, carambolage, plan aérien sur insérer une image de ville qui fait ville d'Europe de l'Est.png, gros plan sur les sourcils français, le crâne de Bruce Willis, gros plan sur son fils, bim, paf, pouf, carambolage avec le trafic, voiture renversée, tunnel, grand méchant qui fait des vannes pour voler la vedette à John McClane, de toute façon ce n'est pas son fils qui va les faire, et re-carambolage, explosion. Entre deux voitures renversées, je ne sais pas comment fonctionne l'assurance en Russie, mais à mon avis, ça va pleurer dans les bureaux. Junior prend une oreillette et se met en relation avec des militaires et des mecs en costume qui parlent la même langue que lui. Et là, choc bar révélation, on apprend qu'il travaille pour les États-Unis. La SIA, le FBI, on ne sait pas encore.
La
mais
SIA.
Ce qu'on sait.
La SIA.
Putain, mais non.
Entre la SIA,
c'est toujours tous, non?
Mais la SIA.
La
one, two, three, one, two, three, three. I wanna say.
Pourquoi j'ai dit yes? Donc, et là, choc bar révélation, on apprend qu'il travaille pour les États-Unis. Le FBI.
On l'a perdu.
Le FBI.
la CIA. Bravo. On ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est que le pays de l'oncle Sam est derrière l'assassinat dans la boîte de nuit. John leur demande, grosso modo, si la voie est dégagée pour qu'ils puissent s'enfuir de Moscou avec Yuri. Après un bref repérage via satellite, les militaires lui disent que c'est mort et que son plan A tombe à l'eau. Il faut donc utiliser le plan B et prendre une autre sortie. Le souci, c'est qu'il y a énormément de trafic, comme on a pu le voir avec le nombre de voitures renversées. John rentre dans la camionnette de son fils, mais ça ne suffit pas pour l'arrêter.
Et par contre, dans cette scène d'action, je suis désolé, je pense la première partie de la course-poursuite, je la comprenais pas. Il se passe trop de choses dans tous les sens. Je trouvais super mal foutu. C'est rare que j'arbitre rien à ce point-là, une course-poursuite.
Donc, le souci, c'est qu'il y a énormément de trafic. John rentre dans la camionnette de son fils, mais ça ne suffit pas pour l'arrêter. La course-poursuite reprend de plus belle et il y a un plan sur l'intérieur de la camionnette de ceux qui ont fait péter le tribunal. Alec, le leader de l'organisation, en a marre d'être pris en chasse par John McClane et décide de l'éliminer avec un lance-roquette. C'est normal en Russie. John évite de justesse un des projectiles avec ce super drift, mais est dévié de sa trajectoire. Il arrive à sortir de justesse du véhicule et arrête une voiture en se jetant littéralement dessus. Là, le conducteur, un stéréotype de russe, yeux bleus, cheveux châtains plaqués, blouson Adidas et chaîne en or, sort du véhicule, l'insulte, et la John McClane lui lance un pain, ainsi que seulement sa troisième vanne du film, ce qui est bizarre pour un die-hard, avec « Tu crois que je parle russe, moi ?»
Ouais,
c'est une vanne
Je pense que c'est une vanne. Ah, je sais pas.
Alors, en vrai, ça sonne assez bien pour le coup en anglais et ça fait très McClane. Sauf que moi, ça m'a un petit peu choqué que du coup, ça s'accompagne d'un bourre-pif sur un civil et pas un méchant.
Oui, effectivement, il est violent envers les civils alors que c'est la première fois qu'on voit faire ça. Quoi.
Ouais, bah, c'est ça.
C'est pas des Américains.
C'est littéralement ça.
Mais ça reste un flic.
Bah oui, voilà.
Et puis, alors moi, cette scène, elle m'a fait vraiment rire pour le coup. Il y a deux, trois séquences comme ça qui m'ont fait beaucoup rire. Alors, un peu dépend du film. Le bruitage du coup de poing est fabuleux. Je l'ai dû regarder genre 5-6 fois d'affilée, juste pour le bruitage. Vraiment, c'est un des plus beaux que j'ai entendu de ma carrière de cinéphile.
Je rajouterai au montage.
Et vraiment je pige rien au russe quoi.
Pige rien au russe.
Non mais c'est ça, mais tu crois que je parle ta langue?
T'es en mode mais what the fuck quoi,
ça aurait été hyper drôle avec un méchant.
Oui,
c'est vrai.
Bon, du coup, après ce très beau coup de poing sur civil, on est de retour dans la course entre Jack et les méchants russes en camion militaire. Ce dernier, il explose tout sur son passage et on peut noter l'hilarité des Russes à l'intérieur qui le conduisent. Ils sont super content d'exploser les civils et tout ça. Après, on l'a déjà dit, mais c'est très cliché, hein. Ça va dans tous les sens, il y a des crash zoom à gogo, c'est... Ouh. John, dans son Boca de 4 russe, il essaye de rattraper la course-poursuite. Mais il se retrouve sur un pont alors qu'on voit que la course-poursuite se déroule plus bas.
Tout à fait.
Comment va-t-il faire pour les rejoindre? Heureusement, le film c'est ultra pratique. En fait, juste à côté, il y a plein de camions qui sont alignés et ils sont de plus en plus bas. Comme si c'était une rampe qui avait été là. Enfin bref, bon, n'en parlons pas. Il dévale cette petite pente de camion en voiture, en continuant le carnage. Et là, sa fille l'appelle. Punchline.
Alors, excuse-moi de t'interrompre. Moi, ce que je trouve quand même choquant, c'est qu'effectivement, ils descendent du pont d'abord parce qu'il est au niveau un peu d'une. Il est au-dessus d'autoroute. Donc, au début, il roule sur un camion. C'est un camion remorque. Donc, il roule sur la remorque. Mm-hmm. Ok, pas de souci. Ensuite, il roule sur des voitures dans lesquelles il y a des civils qui sont en train de rouler. Donc, littéralement, il écrase le toit de voitures dans lesquelles il y a des civils qui n'ont rien demandé, qui sont juste bloqués dans le périph', putain.
Ouais, mais il s'excuse.
Et c'est ça, hein, il n'arrête pas de dire aussi des one-liners tout seul que personne ne peut entendre en mode « Pardon, désolé !» Et ça m'énerve.
C'est le décalage horaire. Je me souviens que dans le 3, ils roulaient à tombeau ouvert, entre autres dans Central Park, en disant « Cassez-vous !» etc. Donc les gens fuyaient devant lui, mais il renversait personne. Là, il écrase des bagnoles avec des gens dedans.
Ouais, et puis il essaie de faire gaffe, t'sais, genre des fois, il tire en l'air pour faire fuir les gens, etc. Enfin, justement, c'est un bourrin, mais qui fait attention, normalement.
Oui, il fait attention au peuple américain, mais là, ce sont des Russes.
Exactement.
On est de retour sur la camionnette et le camtar militaire qui se tamponne sur la bretelle d'autoroute, en esquivant au mieux les autres voitures. Bon, la camionnette, elle fait une espèce de 360 sur elle-même, puis elle se retrouve sur le côté avec le gros camtar militaire qui vraiment la pousse, quoi. Donc là, pour l'instant, le petit Jack, il est un peu kéblo.
Tu parles des one-liners de Bruce Willis, mais t'as aussi le chef des mercenaires, là, Alick, qui arrête pas de faire des remarques en plus. Et puis, tu sais, il donne des ordres qui n'ont aucun sens à ses sbires.
Clairement. Je t'ai pas dit d'aller vite, je t'ai dit de voler. Ok, bon, du coup, le mec accélère, il est là. Ouais, comme un gamin.
Tous les one-liners de perso qui parlent tout seuls, alors que c'est les seuls à pouvoir plus ou moins s'entendre. Voilà quoi, t'es en mode... Au moins c'était drôle dans les autres films où il s'adressait au méchant, il était en train de le narguer en mode « Ha ha ha, tu as vu, je t'ai niqué !» Alors que là...
J'ai une mitraillette, ho ho ho.
En fait, ce qui faisait le succès des premiers, c'est qu'il y avait aussi un côté un peu narquois. Je me souviens, dans le premier, il est dans un... c'est trop la merde, il est coincé dans un conduit d'aération, tu sais. Et c'est justement ça qui a donné ensuite le cliché du héros qui s'enfuit par les conduits d'aération. Et il était viens nous rejoindre à Noël, Los Angeles, on va passer un super Noël, alors qu'il est tout seul dans son conduit d'aération de merde. Donc en fait, ce genre de truc, avec le héros qui est tout seul et qui dit des trucs drôles uniquement pour lui, ça fait partie de la saga. C'est juste que c'est très mal fait, c'est toujours...
Oui, c'est ça, mais après, c'est en mode... Là, c'est quand c'est vraiment des répliques dit pour lui, en mode oh là là, tu verras, on va passer un bon moment et je me retrouve bloqué là, tu vois. Genre, tu sens que la situation fait que t'as un peu envie de râler, quoi. Alors que là, on sent la manière dont c'est fait, c'est vraiment en plus, genre haha, t'as vu, hein. John a une bonne idée, il pousse le camion en direction, vous savez, des bandes d'arrêt d'urgence, les espèces de trucs en béton qui empêchent que tu t'écrases et tout ça. Il le pousse au début de celle-là qui agit comme une rampe et ça lance le camion qui va s'exploser plus bas dans une espèce de grosse canalisation en béton. Et je pense que le réal, il a tellement aimé cette scène, ça a coûté tellement cher qu'il le montre trois fois, sous trois angles différents de caméra, alors que c'est de la merde. Alors.
Comme la mort du sbire à la fin de Piège de Cristal, quand en gros à la fin du Piège de Cristal il pense avoir gagné, et puis en fait t'as le sbire, un des sbires les plus marquants du film, donc qui est le gros allemand avec les cheveux longs blonds, etc., et qui sort en tirant partout, et genre vraiment tu vois trois fois le plan où il est en mode...
C'est aussi que le mec est sur un brancard, il est censé déjà être mort et avoir été étranglé en fait, donc oui. Tu penses qu'il est déjà mort, et le fait que tu vois le plan deux trois fois quand il se relève, c'est aussi... Ils sont tous complètement stupéfaits, ils n'arrivent pas à bouger. Donc c'est pour montrer qu'ils sont paralysés de trouille de ce mec qui est censé être mort, qui était increvable et qui est toujours pas mort alors qu'on pensait que c'était le cas. Quoi. Là, il n'y a pas de surprise particulière, c'est juste, c'est un peu un money shot, on va le remonter trois fois.
Un money shot nul à chier.
Franchement, je pense que sur cette course-poursuite, moi, je la trouve pas si dégueulasse que ça.
Pas dégueulasse, mais sans grand intérêt.
Je vais pas dire
que c'est du niveau de James Cameron quand il est en forme dans
Terminator 2. En même temps, je pense que c'est la course poursuite.
C'est le seul passage du film que je sauve un peu, c'est cette course poursuite à l'autoroute.
Quand même, je suis d'accord avec toi.
C'est peut-être le truc le plus divertissant du film. Mais vu comment on en a parlé, c'est pour vous dire le niveau, quoi. Genre,
c'est le truc le plus divertissant,
alors que c'est déjà bas sur l'échelle du fun. Allez, on retourne à l'histoire. Le méchant, il s'est crashé, et on revient dans la camionnette avec Jack. Il refait demi-tour, il va chercher son paternel. C'est beau les liens entre familles comme ça. On retourne sur le site du crash. George sort difficilement de sa caisse, hein, parce qu'évidemment, c'était gros choc, il s'est aussi envoyé en l'air. Et on voit les Russes en contrebas qui sont très méchants parce qu'ils commencent à tirer sur des civils, hein, de manière gratuite, en mode on est méchants. Ok, putain, film. Jack, putain.
Ah, quelle idée d'avoir appelé ces personnages John et Jack, quoi.
Fiston McClane et Papa McClane.
On va appeler Fiston. Ok, Junior. Junior arrive sur le site du clash, il récupère son daron en le faisant monter à l'arrière de sa camionnette, quoi.
Donc ensuite, nos trois personnages arrivent à la planque de la CIA. Et le mec de la CIA, qu'on ne nous présente pas encore, les attend, pépouse quand même sur le pas de la porte. Et il dit à haute voix, John McClane. Donc il sait qui c'est, a priori. Et il regarde John McClane d'un air un peu circonspect. Mais moi je trouve ça magique quand même. Il n'y a pas de mot de passe, on vérifie pas que vous êtes suivi. Enfin, il n'y a absolument rien, quoi. Pas un mot pour la légende John McClane. Je sais pas, moi je trouve ça marrant, cette constante qu'il y a dans la saga, à dire à chaque fois « Oh putain, McClane casse les couilles ». Personne dit « Putain, ce que tu fais, c'est ouf quand même, mec ». Personne, pas une seule fois. Tout le monde trouve que le mec est chiant. Alors qu'à chaque fois, il sauve le...
Dans ce cas-là, c'est peut-être
dans le premier, il y a le flic.
Al, mais c'est tout. Tous les autres, ils font genre...
C'est ça qui donne une dynamique intéressante. C'est que justement, tout le monde le prend pour... C'est l'underdog. C'est-à-dire que c'est le petit flic de Brooklyn, c'est même pas de New York. qui a l'air un peu pecno, mais qui en fait est super smart et qui repère les trucs et qui arrive à s'en sortir. C'est quoi qu'il dit ? Je suis une mouche dans un verre de lait, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Bien sûr, mais au bout du 4, ils ont compris qui il était. Ils ont compris qu'il était smart et qu'il était génial. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus trop une surprise, entre guillemets.
Oui, mais s'il est traité comme une sorte de super soldat, d'un seul coup, la dynamique marche moins bien.
Bah là, c'est plutôt une mouche dans la merde, hein, vraiment. Et
pour le coup, je trouve que c'est un des trucs qui manque cruellement au 5, c'est que un des charmes de Die Hard, c'est vraiment justement le côté plouc de John McClane. Et je trouve qu'ils avaient quand même réussi à le faire dans le 4 avec justement le côté un peu boomer de McClane, c'est-à-dire voilà, c'est le vieux flic à l'ancienne qui comprend rien à la technologie, du coup on le met avec le petit hacker qui était plutôt chouette comme personnage, je trouvais.
De ouf. Ouais.
Et en vrai, c'était une dynamique qui était drôle et qui fonctionnait bien. Et là, c'est John McClane qui a fait les 4 films où il a sauvé tout le monde, etc. T'es censé savoir qui c'est, et du coup l'aspect un peu plouc flic qui n'a rien à faire là. Je sais pas, ne fonctionne pas sur moi.
Je pense que ça aurait pu marcher s'il était tellement un peu con qu'il connaissait vraiment absolument rien à la Russie, même pas dire da, et si ça avait été, tu vois, si le côté un peu poisson hors de l'eau en Russie avait été accentué pour montrer que encore plus que n'importe quel Américain, vraiment, il n'y connaît rien.
Je pense que c'est un des défauts du scénario, c'est d'avoir fait toute la scène d'intro. En fait, je pense qu'on aurait dû démarrer direct sur McClane qui veut retrouver son fils et qui se retrouve dans un truc qui le dépasse complètement au hasard. Comme par exemple dans le 4, parce que bon, dans le premier, voilà, il est là, il va voir sa femme et puis pas de bol, il y a le truc. Ouais. Dans le 2, pareil, il attend sa femme à l'aéroport et puis pas de bol, il y a un truc. Dans le 3, bon là, c'est le méchant qui joue les maîtres chanteurs avec lui directement, qui le vise directement. Et dans le 4, en gros, il doit arrêter un hacker parce que voilà, il y a des problèmes de piratage informatique et bon bah pas de bol, il y a des mecs qui veulent buter le fameux hacker et il se retrouve par hasard dans l'aventure. Et il y a toujours cette dynamique de il est par hasard dans le truc, et là tu sais que c'est pas par hasard en fait.
C'est vrai que si ça avait commencé par ça, ça aurait été bien. Tu sais qu'il y a l'étape suivante des geeks ciné encore pire que nous, c'est qu'il y a des mecs qui s'amusent à essayer de sauver les films en les remontant. Autrement dit, ils prennent les scènes et ils essayent de changer l'ordre, de changer un peu les répliques pour faire en sorte que ça donne un truc mieux que ce qu'on a vu. Et peut-être qu'il y a un truc un peu à améliorer. Je pense pas qu'on puisse sauver le film.
Non,
je pense
que ça marchera pas pour celui-là.
Je pense qu'en changeant la colorimétrie et en enlevant environ 1h30 de film, il y a un truc à faire.
Donc le mec de la CIA explique à Yuri Komarov que la moitié de Moscou est après lui et il demande à Yuri de changer et de lui faire confiance. Et il lui demande s'il a le dossier sur Chagarine. En parallèle, on voit John qui regarde la table de commande de la planque avec plein de boutons et qui comprend seulement à ce moment-là que son fils est un espion. Et il dit avec beaucoup de mépris d'ailleurs, en parlant de son fils, qu'il fait du spy shit. Tu vois, je trouve qu'il se fout carrément de sa gueule. Il lui dit « Ah ouais, genre t'es le 007 de Plainfield, New Jersey, quoi !» Et il se marre, donc vraiment sympa pour le fils. On comprend un peu pourquoi il a la quinte contre son père, hein, de toute évidence. Et là, le mec de la CIA dit à John de la fermer, en mode un peu vénère, quand même. Okay.
Moi, pendant tout le film.
En mode maître d'école, ok. Et John lui répond « Tranquille, hot job, je suis en vacances !» Le fameux « je suis en vacances ». Donc John dit à son fils « Ah bah ta mère va être contente, elle te croyait toxico ». Pendant ce temps-là, le mec de la CIA continue de cuisiner Yuri pour savoir s'il a le dossier sur Chagarine. Il lui dit « Voilà, si tu me donnes le dossier, je t'exfile de Russie ». Mais Yuri dit que sa vie ne compte pas, voilà, et qu'il ne croit pas en plus que les 3 seules pauvres personnes dans cette pièce pourront réussir à l'exfiltrer. Donc John lui répond de manière absurde, encore une magnifique ligne de dialogue. « Hey Nijinsky, je suis pas dans le coup, hein. Moi je sors de l'avion, hein, je te préviens ». Parce que dans toute la saga, McClane a toujours des répliques cinglantes, hein, qui peuvent être parfois limites, comme dans le 4. Moi j'aime beaucoup sa réplique, mais bon, je trouve ça un peu limite sur la petite pute asiatique anorexique. Mais bon,
ah oui, c'est
du méchant. Mais je trouve qu'elle est quand même
dans le
3,
il s'arrête au milieu de sa phrase, mais il allait utiliser le N-word pour Samuel L. Jackson.
Ah, c'est ce que pense Samuel L. Jackson. Il lui dit, t'as allé utiliser le N-word. L'autre lui dit, mais non, pas du tout, arrête avec
non,
le racisme.
Non, je crois qu'il s'arrête. Je me demande s'il s'arrête pas au milieu du N ou un truc comme ça. Il dit, t'allais me traiter de N-word. Et il dit, non, j'allais te traiter de sale connard. Ça te va, sale connard, un truc comme ça. J'ai pas vu le film depuis quelques années, mais de mémoire, c'est ça.
Ouais, il y a d'ailleurs moi j'adore le 3, mais c'est le seul problème effectivement du film. Il y a un traitement un peu compliqué, je trouve, au niveau des répliques sur le racisme. Et
ah, bah, je trouve ça intéressant pour le coup.
C'est intéressant, mais c'est. Il y a des trucs un peu discutables, qui sont un peu bizarres. C'est quand même un point de vue qui est un peu particulier. Bref. Donc encore une fois, bon, bah, c'est, ça fait partie des rêves qu'essaie d'instiller John Moore dans le film, mais qui tombe un peu complètement à plat. Donc John dit à Jack, je suis pas dans le coup, hein Jack, hein Jack, je suis pas dans le coup. Donc il demande quand même confirmation à son film. Alors MDR, John, tu viens de rouler sur la moitié de Moscou et de foutre sur la gueule à des mafieux que tu connais pas pour arriver à juste adresser la parole à ton fils, qui est clairement dans, impliqué dans une affaire d'État russe, et tu es présentement dans une planque ultra secrète de la CIA. Mais tu te sens pas impliqué. Non, tout va bien, cohérence absolue du scénario.
Bah non, enfin, il est en vacances.
Mexis blanc, hein.
Mexis blanc.
Non, mais ça, c'est fou, on va la faire à tous les films, cette blague.
Oui. Alors que bon.
Donc pendant ce temps, Jack récupère du matos et il fait joujou avec un couteau à cran d'arrêt. Le mec de la CIA insiste pour savoir quand même où est le dossier. Hein. Donc Yuri finit par lui dire qu'il est dans une chambre forte à Prépria, mais que la clé est à Moscou, hôtel ukrainien.
Moi j'ai cru voir que le couteau, si j'ai bien suivi, c'était pas uniquement un couteau et c'était un truc qui était capable de tirer une balle en plus, ou j'ai mal compris?
Oui, c'est un revolver.
Voilà, c'est que c'est en même temps un couteau et en même temps tu peux tirer quelques balles.
D'accord, ok, j'avais pas fait gaffe à ça, autant pour moi. Le mec de la CIA donc passe un portable à Yuri pour qu'il appelle sa fille et il dit à Jack, allez, on va à l'hôtel ukrainien. Donc Yuri appelle sa fille et il lui dit, de manière un peu cryptique mais visiblement elle comprend, je t'attendrai là où j'avais dansé avec ta mère tout de suite. Donc après avoir accroché, Yuri se regarde dans la glace comme s'il n'aimait pas le reflet qu'il voyait. Voilà, on revient sur Jack et le mec de la CIA qui l'appelle Mike. Ah, et là on comprend, c'était le Mike au galon du début de la CIA, d'accord. Et qui s'excuse pour ce qui s'est passé le matin, on a
alors,
compris.
On comprend quand on regarde le film pour la deuxième ou troisième fois, la première fois où tu
exactement,
rien.
Je suis tout à fait d'accord. C'est en le revoyant, sinon ouais. C'est incompréhensible, le personnage de Mike, il passe complètement à la trappe. Hein. Donc, attention, scène magique. Yuri dit « Ok, c'est bon, on peut y aller ». Et là, il se prend une balle dans le bras, et Mike, le mec de la CIA, une balle dans la tête. Ok, donc les tireurs n'ont bien visé que pour le personnage secondaire, hein, pas pour l'ennemi numéro 1, normal.
Après, ils ne veulent pas le tuer, Yuri. Ils veulent le garder en vie.
Oui, c'est vrai.
Mais en fait, à un moment, moi, je me suis demandé, c'est
le fils, Jack,
c'est le fils, ouais, ou un truc comme ça. Va y avoir un twist là-dessus, parce qu'il y a un truc avec la CIA qui a pas pu les récupérer et tout. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un twist là-dessus, tu vois, parce que bon, c'est commun dans les Die Hard qu'il y a toujours un twist à un moment. Et mais non, ça n'a juste pas de sens.
Ça n'a juste absolument aucun sens. Donc, décidément, cette planque de la CIA, comme le dit après d'ailleurs John, elle est vachement sécure quand même. Jack il s'oblige à faire le daron avec Yuri hein, quand même. Il se précipite sur Yuri pour le mettre à terre parce que l'autre est pas suffisamment intelligent, il vient de se prendre une balle mais il se met pas à terre, hein, tout va bien. Et il demande à John de le couvrir. Ah là cette fois-ci c'est utile ton vieux, hein, le reste du temps t'en as rien à foutre mais là cette fois-ci hein, t'es content qu'il soit là quand même. Hein. Alors la scène, je suis désolée mais elle est tellement mal montée. On dirait que John sort littéralement de son cul un machine gun. Je suis désolée, j'ai revu plusieurs fois cette scène. Et il sort de son cul un machine gun. Je suis désolée, je sais pas d'où il le sort. Et il commence à défourailler tout ce qui bouge.
Après, si c'était là depuis le début, ça explique pourquoi il est si rigide pendant tout le film.
Donc John défouraille tout ce qui bouge. Alors comme d'hab, les méchants sont de gros abrutis et ils se jettent littéralement hein, sous les tirs de John, évidemment. Jack déclenche à ce moment-là des explosifs qui étaient placés au niveau des fenêtres terrasses par lesquelles sont rentrés les méchants. Jack utilise un joli jouet à la James Bond à base d'explosifs, un truc très 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 design, pour fabriquer une porte dans un mur. Et il dit à John « Viens, on se casse !» Lequel redit « Bordel, je suis en vacances !» C'est vrai qu'on n'avait pas compris. Non, c'est, voilà. Et 13 000 km pour se taper ça. Vraiment des lignes de dialogue très utiles et absolument géniales.
La phrase de « je suis en vacances » et le décalage horaire, c'est en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser à grand saga de films d'action, L'Arme Fatale, avec « je suis trop vieux pour ces conneries ».
C'est dans une 3, il passe son temps à être en gueule de bois et à demander à tout le monde une aspirine, parce qu'en fait, il est en gueule de bois.
Oui, c'est vrai, ils n'avaient pas une aspirine.
Il a été lâché par sa femme, non? C'est pour ça.
C'est ça, dans le premier, il est pieds nus, c'est une running joke, enfin c'est un truc qui est tout le long.
Et le point sur les orteils.
Ouais, c'est ça. Le point, il faut faire le point avec les orteils. Dans le 3, il est en gueule de bois, il veut une aspirine. Ils ont essayé de faire un truc comme ça avec le fait que je suis en vacances, etc. Mais ça marche pas.
Voilà,
ça marche
je peux insister sur le terme essayer.
Donc, ils s'échappent par le toit de l'immeuble. On n'a pas vu comment, mais c'est pas grave, hein, ils sont arrivés sur le toit. Alors, Yuri, il est tout essoufflé hein, en descendant par l'échelle et il sort un truc un petit peu lunaire à John au niveau dialogue. Il lui dit mais est-ce qu'il sait quel âge on a quand même? Lourdeur des dialogues, quoi. Jack engueule son père, ça commence à devenir relou au bout d'un moment, alors que bon, son père vient quand même de lui sauver le cul des tireurs en lui disant qu'il lui aura fallu 5 minutes pour ruiner 3 ans de taf. Jack dit qu'il est grillé, qu'il a plus d'amis dans la ville. John lui dit d'appeler Langley, donc le QG de la CIA, mais Jack lui prend son tel, l'éclate, et encore une fois réplique naze de John qui dit « J'avais 2 abonnements avec ce téléphone ». Ok, normal. Yuri dit bon, faudrait peut-être qu'on se mette en route quand même. Hein. Donc Jack récupère du matos dans un locker et discute avec John qui lui demande mais au fait, c'est quoi tout ce bordel pour un seul mec ? Alors, bon, il n'est pas très perspicace quand même, John, donc Jack est obligé de lui expliquer que Yuri est un prisonnier politique et que c'est une question de sécurité nationale, car il veut stopper Chagarin, ce qui est aussi le but de la CIA. Ce à quoi John répond, bah, on n'a qu'à le larguer à la brossade et on rentre. Donc Jack lui explique que c'est désormais un gros bordel politique. Mais dis-moi, Jack, pourquoi tu m'as pas appelé pour me dire où t'étais ? Bon, on repart sur le sempiternel truc père-fils qui commence à nous gonfler un petit peu. Ça nous dit pas l'origine de la brouille, et d'ailleurs, on s'en tape. Donc, changement de scène, là, on arrive sur un chantier de construction qui, bien à propos, se trouve devant l'hôtel. Et Jack dit à Yuri qu'il touche bientôt au but, qu'il a qu'à récupérer la clé dans l'hôtel et qu'après, c'est bon, ils peuvent se barrer. Et en fait, il en a rien à foutre que l'autre, a priori, soit un peu en train d'agoniser et de se vider de son sang, en fait. Tu vois, vraiment, moi, je n'ai aucune empathie pour lui. J'en ai absolument rien à foutre, quoi.
Moi, j'ai un peu d'empathie pour lui parce qu'il doit se... Il est confronté à Bruce Willis depuis le début du film. Et ça, c'est la seule empathie que j'ai. C'est vraiment de me dire, genre, putain, mais si moi aussi, je devais me traîner ce boulet, là... Et franchement, t'as été méchante avec lui, hein, parce que pour le coup, toute la merde qui lui arrive, c'est un peu à cause de John McClane qui arrive et qui fait... Hey, « Eh, fiston, c'est moi !» Et t'es en mode genre « Non, attends, t'es dans mon chemin.
Bah, » C'est vrai que dans les films précédents, c'est le petit grain de sable dans le rouage, sauf que normalement, dans les films précédents, c'est le grain de sable dans le rouage qui empêche les méchants de réussir leur coup. Là, c'est le grain de sable dans le rouage qui empêche son fils de réussir à faire une exfiltration d'un prisonnier politique. Donc ça craint un peu, quoi.
Après, moi, j'arrive très bien à imaginer John McClane en très mauvais père. Tu vois, genre, j'imagine très bien genre, ce mec dire « Fils, tu n'es pas digne de moi, je te fous à la rue. »
Mais pour le coup, c'est un truc qu'il y a beaucoup dans le 4, avec, enfin, un peu avec la relation avec sa fille, etc. Où concrètement, bon, bah voilà, c'est un père absent qui est absorbé par son boulot, qui est retourné à New York, etc. Et en fait, la fille qui est restée beaucoup plus proche de sa mère, et il y a tout la blague, en fait, de finalement, elle lui ressemble beaucoup en termes de caractère, et ça rend leur relation attachante. Là, avec le fils, ils ont. Je sais pas. En fait,
zéro alchimie.
Non, ouais, c'est ça. Et bon, il y a quelques scènes de développement, on va dire, de personnages, mais.
Le problème, c'est Jay Courtney, ouais, c'est de toute façon, qui n'a d'alchimie avec personne.
C'est ce que j'allais dire.
Et en fait, je pense qu'en fait, ce mec, faut arrêter de le caster en héros. Il a une gueule de sale mec. Très bien, on continue. Et là, en fait, il y a eu beaucoup de scènes de dialogue, mais c'est pas fini parce qu'on va continuer sur les incroyables scènes de dialogue. Ils arrivent du coup devant l'hôtel en se disant il y a trop de personnes devant, on va essayer de rentrer par l'arrière de l'hôtel. Et ça continue à discuter. D'abord, il y a Jack qui dit John, je vais essayer de trouver une entrée. Et ensuite, il y a Papa McClane qui dit pourquoi tu m'appelles John ? C'est quoi ces conneries ? Pourquoi tu m'appelles pas Papa ? Et donc, du coup, c'est sur le fait que, ah bah tiens, ils arrivent pas à se saquer et que vraiment, il n'y a pas la communication entre ces deux-là, c'est compliqué. Et lui dit, je sais plus, il part en disant parce que tu mérites pas que je t'appelle papa, en gros, c'est ça le sens. C'est pas tout ça, mais du coup, ils doivent rentrer dans l'hôtel. À un moment, Yuri et Jack discutent de la façon de rentrer. Pendant ce temps-là, Papa McClane va discuter en fait avec un des gars qui s'occupe de sortir le linge. Il lui file un bifton et grâce à ça, ils réussissent à rentrer.
Qui est un des gars qui fonctionne le mieux du film, j'ai trouvé. Ouais. En fait, le côté de il fait le plan et puis tu. Quand tu fais attention entre les deux poubelles, tu vois la silhouette de Bruce Willis donc qui va vers soudoyer le mec. Je trouvais que j'étais en mode oh le ok là j'ai rigolé. Enfin j'ai vraiment aimé ce petit détail.
Ça met en fait en place une petite dynamique qui marchait bien dans le premier où en fait il y a une espèce de guéguerre non seulement entre John McClane et les terroristes mais aussi le FBI qui veut absolument régler l'affaire avec les terroristes à leur façon. Et en réalité, John, qui emmerde non seulement les terroristes, mais en même temps, qui ne se comporte pas de façon pro par rapport au FBI. En fait, FBI fait connerie sur connerie.
J'ai juste une petite fun fact débile. En fait, quand il monte dans l'ascenseur, on entend juste la musique qu'on entend, c'est The Girl from Ipanema, qui est un classique de la bossa nova et qui est devenu un peu toujours associé à une musique d'ascenseur. Donc, je trouve que c'était assez drôle, en vrai, ce qu'ils attendent avec la petite musique. Mais encore une fois, ça aurait pu être hyper drôle, mais je trouve que John est tellement pas expressif, il est aussi expressif que Vin Diesel, et du coup ça marche pas. C'est
non, non. Si jamais les musiques d'ascenseur vous intéressent, il y a plein de super playlists Muzak sur YouTube, allez-y, d'albums.
C'est quoi Muzak ?
En fait, c'est un peu le style de la musique de supermarché années 50, musique d'ascenseur, etc. Et c'est très esprit les Sims 1 aussi quand tu fais les courses et tout, et genre j'adore ça. Et vraiment, c'est voilà, fun fact. Tapez Muzak sur YouTube, vous allez être très heureux.
Avec un K ou un C à la
Avec
fin.
Un K.
Avec un K.
Donc Irina arrive, elle se jette dans les bras de son père, ils se font un câlin. Il y a de nouveau un truc sur le fait que Yuri et sa fille sont super complices et John dit à son fils, ah bah tiens, tu veux pas qu'on se fasse un câlin ? Il dit non, c'est pas le jour de la famille. Et on sait pas pourquoi John se dit, commence à dire, je trouve que c'est bizarre cette scène, alors qu'a priori il y avait rien de particulièrement.
C'est le seul truc lucide qu'il dit du film.
Ouais. Bizarre.
Nous aussi on est devant en mode.
À ce moment-là, Yuri fouille la salle de bal pour retrouver la clé. Alors je dois dire que j'avais oublié cette histoire de clé, ce qu'il venait chercher. Enfin bref, les histoires de, on appelle ça comment déjà quand ils doivent chercher un truc dans les films.
MacGuffin.
Le MacGuffin, merci.
Ah bravo. Oui.
Donc c'est le MacGuffin du moment, sachant que voilà.
Et c'est un nom allemand.
Ouais. Oui. C'est pas un burger le MacGuffin.
J'en sais rien, putain.
Décidément. C'est ça.
C'est un burger russe.
Et donc Yuri trouve la clé. Et juste à ce moment-là, John qui commence à interroger Irina sur mais t'es arrivé super vite, mais comment est-ce que t'es arrivé? Et elle lui dit bah j'ai pris le Garden Park.
Garden Ring.
Alors que justement, bah, Garden Ring c'est censé être toujours embouteillé. Donc comment est-ce qu'elle a pu arriver alors que c'est toujours embouteillé? Et donc il commence à se douter de quelque chose. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Alic, le grand méchant, le grand homme de main, qui arrive avec une demi-douzaine de mecs armés. Et ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, Irina va trahir son père et rejoindre Alic. Et donc, on comprend que Irina, en réalité, ne fait pas ça pour libérer son père, mais qu'au contraire, elle souhaite trahir son père. Et quand son père lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Je suis ton père. » Il dit « Oui, mais tu m'as laissé sans une thune parce que tu étais trop occupé à gagner ta vie. Et là, il fallait bien que je gagne ma vie. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà, moi aussi, je trahis, et y compris mes proches, parce que on fonctionne comme ça dans la famille. »
Je suis désolé, mais en fait, Alic, il arrive en mangeant une carotte crue.
Oui.
C'est vraiment un plot de méchant.
Ça, en fait, c'est pour avoir l'air cool. Et justement, dans la scène suivante, Alic et les soldats vont menotter Jack et John McClane et les foutre à genoux. Donc, ils sont menottés à genoux. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire un petit pas de danse. Et pour moi, c'est complètement repompé sur la scène de Reservoir Dogs. Quant à,
où il est en train de manger
Madsen,
une carotte.
Ouais.
C'est Michael Madsen,
voilà.
Celui qui joue dans les Kill Bill aussi.
C'est ça, oui. Qui danse sur une musique super cool avant de commencer à taillader un mec à l'oreille, si je me souviens bien.
Oui.
Et là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il a une carotte et qu'il commence à virer les flingues avant de commencer
et
à
tout le monde sait qu'une carotte, c'est très très menaçant.
Ah, j'avais pas vu le parallèle.
Je pense que, ouais, je sais pas si c'est un hommage ou si juste il a repompé l'idée, mais en gros, c'est exactement repompé sur cette anecdote. Curieusement,
pour moi, c'est donné beaucoup trop d'intelligence à ce film.
Ouais, c'est
de se dire qu'ils sont allés chercher ça.
Non, alors je dis pas que c'est une référence fine. Si ça se trouve, c'est juste qu'ils ont pompé.
Je pense que c'est même pas une référence. Tu vois, il s'est dit le méchant, il danse. Tu vois, genre.
Non, mais je pense que c'est pour prouver sa supériorité. Il est en mode regarde, j'ai du bêta-carotène et des vitamines A. Je vais te déglinguer.
En réalité, Alic jusqu'ici, mis à part le fait qu'il dirige le méchant, il a quasiment rien dit. Il a pas de personnalité.
Non,
et c'est pour lui donner un tout petit peu de personnalité. Il a le droit de marcher pendant. Il a le droit de parler pendant 30 secondes.
Dans la course-poursuite, il avait vite fait ce petit côté un peu cinglé quand même. C'est un peu son trait de personnalité, de côté un peu foufou.
Ouais.
Ouais, sans limite. Regarde le civil, je le tue.
Un peu sadique, ouais.
Donc peut-être.
Non, je le tue pas, je le tire dans le genou.
Ouais, mais il aurait pu ne pas être sadique si on l'avait aidé. Il a dit moi j'aurais aimé être danseur, mais personne m'a aidé.
Exactement. Bébou. Et ensuite, il dit qu'il déteste, ce qu'il déteste, c'est les Américains, bah, c'est en fait tout, surtout ceux qui se prennent pour des cow-boys. Et là, c'est un peu aussi un.
C'est une référence à John McClane ou quoi?
Exactement.
Mais d'un côté, grâce à ça, on se reconnaît un peu dans le personnage de Alic.
Effectivement. Et du coup, bah, les deux McClane sont menottés à genoux et ils commencent à les tabasser, d'abord à coups de crosse et puis ensuite à coups de poing.
Alors, juste, je précise que très à dessein quand même, Jack a les mains attachées dans le dos et John devant. Oui. Juste pour après.
Donc, les hommes de Bugs Bunny relèvent John et Jack. Mais heureusement que Jack avait un couteau caché qu'il utilise pour couper ses menottes. Parce que tu sais, c'est pas des menottes, c'est des ricelins. Pendant que John se fout de sa gueule. Ah oui, pendant que John éclate de rire et se fout de la gueule des méchants. Et j'ai pas compris.
Mais si, c'est parce que le méchant, c'est gentil et tellement cool qu'il se joue de la douleur. Et alors qu'il devrait avoir mal, au lieu de se laisser tabasser, il se moque des gens qui le tabassent.
C'est un peu le gimmick de McClane. C'est quand il est acculé et qu'il a rien, il rigole. Dans le 4, il y a ça aussi.
Après, il l'a repris vachement dans même Le Bon Samaritain et dans plein d'autres films.
Oui.
C'est le côté, et puis en plus ça fait un peu diversion entre guillemets, ça laisse un peu plus de temps vu que l'autre, comme d'habitude, fait son petit monologue de méchant qui laisse bien le temps gentil de trouver une solution pour se libérer.
Et quand le gros méchant s'apprête à le frapper, Jack se libère à la seconde près et tue les spires pendant que John, toujours menotté, tabasse le méchant. Jack et John se cachent derrière un comptoir, ils butent juste tous les méchants sauf le gros méchant qui arrive à fuir évidemment et à monter dans l'hélico avec Kamarov.
Ils explosent les verrières. Ça, c'est quand même une grosse, grosse référence à Piège de cristal quand Hans Gruber dit « shoot the glass » parce qu'il est pieds nus. Truc.
Et d'ailleurs, visuellement, ça se voit qu'il y a de la... Tu sais que c'est des détonateurs qui font péter la glace. Ils pètent tous en même temps. Et... C'est des détails à la con, hein, je pinaille, hein, mais ça se voit. Mmh. Ça se voit que c'est pas bien fait, concrètement.
En fait, dans tous les films, moi je déteste les films qui étudient tous les micros faux raccords et tous les micros incohérences. Si jamais t'es suffisamment plongé dans l'histoire et que ça semble cohérent, il n'y a pas de problème.
Oui, exactement.
C'est toujours le problème.
Ouais, c'est juste que si tu le vois, généralement, c'est que t'es pas suffisamment dans le film.
Ah bah en fait, c'est ça.
Parce que t'es pas suffisamment impliqué dans ce qui va arriver au personnage. Donc c'est mauvais signe.
Bah en fait, c'est ça.
Parce que sinon, il y a pas c'est pas très choquant. Oui,
bah non.
Quand tu tires dans des vides, normalement, elles tombent pas toutes en même temps, mais c'est pas censé être grave.
Bah comme tous les films de l'espace où t'es pas censé avoir de son dans l'espace,
oui,
mais que tu s'en bats les steaks parce que ça fonctionne, t'es investi dans l'histoire.
C'est ça.
C'est ce que dit Eric. Des faux raccords, t'en as un milliard dans la saga des Die Hard, mais tu les vois pas parce qu'ils sont cool, contrairement à celui-là.
Tu cherches la petite bête. Je suis sûr que le 1 et 3 que tout le monde adore, tu trouves aussi plein de trucs qui vont pas, mais c'est pas grave.
Ouais. Donc, le gros méchant s'enfuit, arrive à fuir, évidemment, et à monter dans l'hélico avec Komarov. Donc, Jack et John essayent de les rattraper, mais trop tard, l'hélico décolle. Et l'hélico profite quand même de ses deux mitrailleuses pour nettoyer l'hôtel, mais heureusement, les rate. Parce que oui, on l'avait pas dit, mais l'hélico a des grosses mitrailleuses sa mère, c'est un hélico de combat.
C'est un hélico de combat soviétique, un Mi-24D.
Et. Oh putain,
Mon père était pilote d'hélico.
D'accord. Waouh. Putain, on apprend des trucs incroyables. Ça me fascine. Cet épisode est incroyable.
Sachant que c'est une machine qui a été créée en 1960 quand même et qui vole quasiment plus, mais en fait les Russes
oui,
ont tellement pas de thunes,
ils
ont encore ça dans leur armée parce qu'ils ont pas les thunes pour remplacer avec des nouvelles machines.
Si c'est le geek, je me suis renseigné, c'est le plus gros hélicoptère qui ait jamais été produit et ils sont très fiers parce que c'est la première fois que tu vois ça dans un film américain.
C'est vraiment un hélico de combat pour le coup.
D'accord.
Qui peut faire du transport de troupes aussi, mais qui est vraiment
oui,
axé,
parce que...
ils les ont beaucoup utilisés, notamment en Afghanistan, tout ça, ça a été beaucoup beaucoup utilisé là-bas, mais sur tous les terrains bien sûr de guerre soviétique.
Et bah très bien.
Je suis trop fan de ce qui se passe.
J'apprends en m'amusant.
Est-ce que tu peux, après cette description ultra détaillée de cette machine de guerre qui a gagné, qui a tué des gens en Afghanistan et tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que nos deux branquignoles arrivent à ne pas mourir devant une machine de guerre comme ça?
Eh bah, très simplement en sautant par la fenêtre. Et donc ils descendent par les échafaudages. Et donc quand ils arrivent au sol, l'hélico se barre en se disant qu'ils sont morts. Mais en fait non, eux ils se barrent aussi de leur côté. Et dans l'hélico, on a donc Chagarin au téléphone qui ordonne à Alik, là j'avais enfin chopé son prénom, de récupérer le dossier et de buter Makarov.
Ouais.
Voilà.
Et juste Alik, je fais une petite aparté, précise quand même que quand il aura le dossier, entre guillemets, Chagarin dit à Alik, tu peux les tuer tous les deux.
Ouais, je sais pas, je vais le dire, mais oui, effectivement, il demande de buter le père et le fils.
Et la fille.
Et la fille.
Après avoir atterri en bas de l'échafaudage et d'avoir suivi donc ce toboggan en fait qui sert à évacuer les débris, notamment dans un chantier, Jack et John rentrent dans une boutique style antiquaire abandonnée. D'ailleurs, je note que c'est le seul moment où la photo est un peu chatoyante, dans les couleurs orangées, très chaleureuse, et ça fait du bien dans le film. Il y a de la couleur enfin. Donc Jack est blessé, il a un gros boulon dans le bidon. John plaisante sur le fait que c'était amusant de se bagarrer contre les méchants, mais s'inquiète quand même un peu de son état. Mais Jack, quant à lui, est choc-barre que Irina ait trahi son père. Et à ce moment-là, John McClane répond « Non mais tu sais, les gosses, c'est compliqué, voilà. » Au cas où vous n'auriez pas compris que le sujet du film, c'est censé être la relation père-fils entre les deux. Jack est désespéré, son plan a échoué, il sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, il y a John qui commence à se foutre de sa gueule en mode « Tu sais quoi, tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre un petit verre de lait avec maman et moi, et puis voilà. » Et du coup, il y a Jack qui comprend le sarcasme de son père et qui dit « Ok, je vois ce que tu veux me dire, t'es en train de me traiter de mauviette. » Donc non, on va continuer. Et à ce moment-là, il y a John qui demande « Mais du coup, c'est quoi ce fameux dossier ?» Parce qu'on se le demande. Et du coup, ce fameux dossier, qu'est-ce que c'est ? Donc, Yuri et le ministre Chagarin étaient partenaires à l'époque de Tchernobyl. Et du coup...
Ils étaient paxés.
Ont détourné, exactement. Et du coup, ils ont détourné de l'uranium à usage militaire durant des années en parallèle de l'activité du réacteur. Sauf que, bon... tout le monde connaît l'histoire, ça a fait boom, fusion, tout ça, radioactivité, on fait défiler des enfants dans la rue, tout va bien, le nuage s'est arrêté à la frontière de la France, donc ça a fait boom, et donc à partir de là, les deux magouilleurs se sont disputés, et Chagrin a mis Komarov en tôle. Et apparemment, durant ces années de prison, Komarov, donc l'ex-milliardaire, s'est repenti. Et la CIA veut mettre la main sur ce fameux dossier, car il contient des preuves. Alors moi, ça me fait toujours rire, le dossier qui contient des preuves, pour faire chuter Chagrin, parce que du coup, voilà, c'est un ministre qui veut prendre le pouvoir prochainement en Russie, wink wink, et qu'il a un arsenal nucléaire extrêmement dangereux qui est planqué, en plus de l'arsenal nucléaire russe, qui est déjà le plus gros du monde, avec les Américains, mais basta. Du coup, après ces explications, John dit à son fils, bon, écoute, t'inquiète, on va à Tchernobyl et on règle ça à la sauce McLean, aka on fonce dans le tas et basta. Il lui enlève le fameux boulon du bide.
C'est juste que quand tu fais John, on dirait juste que t'es bourré.
Oui, bah, exactement. il lui enlève le fameux boulon du bide en faisant une énième référence, parce que voilà, durant toute la conversation, ils font des références sur leur histoire de famille et les anecdotes familiales. Donc là, au moment où il lui retire le boulon du bide, il dit « Ah, tu te souviens quand tu t'es cogné les doigts, quand tu t'es coincé les doigts dans la porte chez tel voisin random, etc. » Bref, là, on est dans la séquence où ils ne vont faire que citer des anecdotes de leur vie extra-diégétique au film. Et... t'en as rien à foutre, vraiment.
C'est pour montrer qu'ils sont censés se rapprocher un peu.
Mais c'est ça. À ce moment-là, ils se rendent sur un parking.
Je trouve que ça aurait été intéressant si une des anecdotes qui arrivait quand il était gamin...
était liée à un des films.
Non, était réutilisée pour la suite de l'histoire, tu vois.
Oui.
Si c'était une préparation paiement, un
fusil ouais,
de Tchekhov.
Ouais, en mode fusil de Tchekhov, ouais, de ouf.
Pour se sortir d'une situation difficile plus tard. Mais non, c'est juste de la scène d'exposition. C'est au lieu de voir les personnages évoluer dans l'action, c'est on va mettre un dialogue pour expliquer que « Ah bah oui, j'ai évolué ».
Ils ouvrent des coffres de voiture, donc il y en a un qui a des bouts de cadavres, la plupart ont des flingues, mais bon, Wako, ils voient juste que quelques pétoirs, ils sont pas satisfaits, et ils finissent par en trouver un avec vraiment plein de fusils d'assaut et autres gilets pare-balles, et t'as John qui demande à son fils, il dit « Mais attends, comment tu savais qu'on allait trouver plein d'armes, etc. » Et il dit « Ah oh, bah c'est normal, là, la boîte de nuit, c'est une boîte de Tchétchène. » Donc voilà, bon, stéréotype les Tchétchènes, hein, ils sont violents, et le propriétaire refuse qu'il y ait des armes dans sa boîte de nuit, heureusement, du coup ils les laissent dans la bagnole, ils sont très cons. Du coup ils volent la voiture qui les intéresse le plus et ils se mettent en route pour Tchernobyl. Donc à partir de là ils sont à Moscou et du coup ils se rendent à Pripyat en Ukraine.
C'est ça.
Ils vont discuter en voiture et on est dans une discussion père-fils où ils discutent de leurs souvenirs familiaux, comme quoi en gros Jack était vraiment un sale petit con qui faisait des conneries, voilà, il a failli mettre le feu à Philadelphie par exemple, et que du coup John a dû hypothéquer la maison, la deuxième maison, pour pouvoir payer les frais de la tôle, en gros. Bref, c'est chiant au possible. Et à ce moment-là, il y a probablement ma séquence préférée du film, où il y a John, donc Bruce Willis toujours, hein, qui demande « Mais attends, on va vraiment à Tchernobyl, genre là où ça a pété, etc. Et, genre pas le truc en Suisse où on fait du ski. » Et là, et c'est la même chose en VF et en VO, il y a Jack qui dit « Bah non, on va pas à Grenoble !» Bon bah déjà, fun fact, hein, Grenoble ce n'est pas en Suisse, c'est même assez loin de la Suisse. Et bref, globalement, blabla de construction de personnages, relations père-fils, il n'y a pas grand chose à ajouter dessus. En parallèle de ça, les méchants arrivent dans un ancien bâtiment d'une ville proche du réacteur. Alors j'ai pas reconnu le bâtiment, j'ai vu qu'il y avait une statue de Lénine à un endroit. Voilà. Donc, ils arrivent dans ce bâtiment proche du réacteur, tout en combinaison hazmat. Et donc ils progressent... jusqu'à une salle où a priori il aurait le fameux coffre où serait caché le fameux dossier fichier. Donc c'est une salle avec des tout petits coffres normalement.
Là, là on parle des méchants là.
Ouais, on parle des méchants, voilà, avec des tout petits coffres de banque, ouais. De banque où tu mets genre quelques bijoux, quelques papiers importants, genre des testaments et des trucs comme ça. Pendant ce temps-là, les McLean arrivent sur le site. Ils remarquent qu'il y a plein de méchants et que du coup ils doivent agir vite, sinon Komarov sera tué. Père et fils s'équipent lourdement pour la confrontation qui approche, discutent du fait qu'ils n'ont pas de plan. Et à ce moment-là, John décide enfin de s'excuser auprès de son fils pour avoir mis la pagaille dans sa mission. Mais au fond, il se dévoile un petit peu en mode, bah, en vrai, moi j'adore faire ça, j'adore ce moment où je me bats avec des méchants et c'est le bordel et c'est le chaos. Et vraiment, je suis trop heureux de partager ça avec toi, mon fils. Je t'aime. Et à ce moment-là, il y a un regard dans le vide de Jack, plein d'émotions, et il fait « Non, mais je t'aime aussi, papa. » Bref, il se répète aussi que « Je te protège, tu sais. Ouais, moi, je te protège aussi. » Bla, 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 bla. Et moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une super blague sur... Parce que eux, ils arrivent, ils n'ont pas de combinaison hazmat, ils sont vraiment arrivés avec les moyens du bord, donc on est vraiment sur un site extrêmement hautement radioactif. Et John qui fait une blague en mode « Eh, mais donc, on va pas avoir, un troisième bras qui va nous pousser d'entre les jambes, un truc comme ça. » Et à ce moment, il y a Jack qui lui répond « Non, tu vas juste perdre tes cheveux », ce qui est drôle parce qu'il est déjà chauve. Il s'équipe, il commence à arriver sur
le
site.
Pardon, désolé, juste en passant, donc les mecs ont pris une caisse, ont fait 700 bornes et ils arrivent quasiment en même temps que la team des méchants qui était avec un hélico de combat qui peut aller jusqu'à 300 km/h. Tout va bien.
Contrairement à l'hélico, ils n'ont pas fait de pause pipi.
Et du coup, il s'équipe, vraiment il s'équipe beaucoup, genre vraiment la scène qui met bien en valeur ça met bien en valeur les muscles de Jack notamment, donc j'ai pas noté le nom de l'acteur.
Jay Courtney. Qui est tanké effectivement comme un cul du reste.
Alors que ça se voyait pas trop durant le reste du film, et là comme il est en t-shirt rouge d'ailleurs, à peu près de la même couleur que le tien, mon cher Eric.
C'est très radiophonique.
Tout à fait. Wow, c'est rouge rosé quoi.
C'est
et bref, il enfile le gilet pare-balles, et genre, tu vois qu'il a des biceps saillants, etc. Et là, je me suis dit, ah, c'était un peu le côté de regarder comment il est sexy et musclé. Bon, moi,
ça canaille.
J'avoue que ça m'a donné au moins aussi chaud que le jour de cet enregistrement.
Okay. Très bien.
Bref, il s'équipe, et là, les méchants, où commence à y avoir des plans. Centré sur ils sont tous des masques à gaz en tenue hazmat etc, donc on voit pas très bien, mais en gros il y a plein de gros plans sur le visage de Komarov, donc Yuri le milliardaire, et qui est en train de chercher le coffre, il tapote etc pour retrouver le bon endroit.
Du coup les méchants ouvrent le coffre en se disant, comme le spectateur, c'est quoi ce bordel, parce que ce coffre ouvre sur une série de tunnels plongés dans le noir, vachement grand le coffre, donc ils s'engouffrent là-dedans. En parallèle, nos deux héros pénètrent dans le bâtiment et éliminent deux mercenaires. Les méchants russes, eux, continuent leur exploration jusqu'à arriver dans une zone de décontamination où ils peuvent enlever leur combinaison. Ils entrent dans une pièce gigantesque où serait entreposé le dossier, pièce tellement gigantesque pour un simple dossier qu'on découvre en réalité que cette dernière abrite de l'uranium stabilisé. Alik, étonné par cette découverte, demande des explications mais est tué sur le champ par Yuri, retournement de situation. Ce Yuri passe de prisonnier craintif un petit peu chiot que tu as envie de protéger à véritable baron de la mafia. En réalité, en fait, cette histoire de dossier était du pipeau. Il a utilisé la CIA pour éliminer ses adversaires et ainsi pouvoir accéder à tout cet uranium pour le revendre en tant qu'arme à des organisations terroristes et se faire un paquet de blé. Nos deux Américains poursuivent toujours leur chemin, tandis que John McClane fait une remarque pertinente, surtout quand on voit qu'un des mercenaires... Et crâne chauve, torse nu, avec une putain de moustache de ses morts, c'est quand même une grosse logistique pour juste un dossier, surtout quand on voit tous les hélicoptères tourner tout autour.
Die Hard 5, c'est une parodie de Die Hard, de sa propre saga, et là on est dans le twist du 3.
Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que le but d'une parodie, c'est d'être drôle.
Ah non, mais je dis ça avec beaucoup de sarcasme. Voilà.
C'est pas une parodie, c'est pas un pastis, c'est juste que bah, c'est la formule des Die Hard, mais simplement c'est pour ça que je dis que c'est un pastiche,
parce que le principe du pastiche, c'est de reprendre tous les codes de quelque chose, de le refaire et de plus ou moins l'actualiser.
Ouais, mais le pastiche, c'est assumé. Là, ils font de la merde, mais ils ont l'impression qu'ils font bien.
Là, c'est juste, ils appliquent la formule, mais c'est comme quand tu regardes l'épisode 8 d'une mauvaise série d'horreur où ils essayent de réappliquer truc de base, sauf que c'est mal digéré, c'est mal foutu.
De son côté, Yuri, dans son rôle de baron de la mafia, appelle Chagrin, le menace, et ce dernier se fait tuer par le masseur alors qu'il était juste là pour se détendre. Et voilà.
Non mais scène si random. En plus, moi beaucoup rire, c'est que du coup, comme tu l'as dit, il appelle le méchant en mode grosso modo, haha, je te nique. Moi, ma vraie question, c'est comment est-ce que le masseur sait à quel moment est-ce qu'il faut buter.
Parce exactement
que c'est pas
ça.
Comme s'il était sur haut-parleur, tu vois, le mec est vraiment avec son téléphone, j'imagine juste il est en train de dire ah ah je t'ai eu, alors que le masseur il a entendu le coup de téléphone, il a buté le mec depuis longtemps, tu vois, genre c'est pas logique.
Alors moi j'ai vu le film une fois quand il est sorti, une première fois et ensuite une troisième fois du coup pour reprendre les notes, et il y avait des trucs dans la partie que je devais décrire où j'avais oublié alors que je l'avais vu une semaine avant, quoi. Sur les histoires de dossiers, etc. Le MacGuffin, c'est tellement artificiel, on en a tellement rien à foutre, que l'enchaînement et la logique du truc, mais alors que je l'avais vu une semaine avant, quoi.
On comprend rien.
Il y a rien qui imprime, quoi.
Non. Moi, je sais que j'ai cette... En vrai, tu vois, genre, je peux oublier d'avoir vu un film, tu vois, je peux lancer un film en me disant oh tiens super je vais le regarder, mais si je l'ai déjà vu, tu vois, genre je vais avoir des échos quand même, des souvenirs qui vont me revenir et je vais me faire genre ah mais si putain il y a ça qui va se passer. Avec ce film ce n'est pas le cas.
Non.
Je l'ai vu
parce que c'est mal
il
écrit.
Il a été oublié, mais vraiment, non mais vraiment je me suis étonné, quoi.
En le
regardant j'étais en mode genre d'où j'ai déjà vu ce film, je ne me souviens de rien. C'est vraiment à quel point ce n'est pas marquant.
Du coup, même si c'est pas marquant, faut continuer. Mais un grain de sable américain se glisse dans le rouage russe de Yuri, parce que John et Junior le retrouvent et lui posent des questions. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est blessé? John, avec ses sourcils froncés, se doute d'un truc. Et tandis que Yuri fait genre il va récupérer le dossier en mode chiot, je suis perdu, ouin ouin sniff sniff, John se dit il y a vraiment un truc qui ne va pas, il le menace et le confronte à la vérité. Yuri les pris la main dans le sac, révèle qu'il s'est servi de la CIA, tandis que Junior se sent alors très très con, encore une fois.
C'est exactement la même scène que dans le premier, quand Hans Gruber se fait surprendre par McLean dans Piège de cristal et qui joue le neuneu. C'est exactement
putain,
la même
scène.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est, ouais,
et qui finit par le confronter en mode haha.
Il s'enfuit tandis que nos deux héros le poursuivent, mais se font tirer dessus par d'autres mercenaires dans une grande salle où sont entreposées plein de caisses. Des tuyaux sont visibles un peu partout et malheureusement un des tuyaux est découpé et du gaz s'en échappe. John et Junior se cachent de justesse derrière des colonnes tandis qu'une explosion énorme retentit alors.
Et moi je voulais savoir si Elisa connaissait le modèle de la grenade qui a été utilisée parce qu'elle avait vachement calé quand même.
J'ai peut-être dit ça pour voir si ça... Si, mais non, il était pilote d'hélicoptère, son père pas fabricant de grenade.
Dans l'armée, donc en vrai je pourrais lui demander.
Ta maman elle fait quoi dans la vie?
Pas ça.
J'adore. Bon, Yuri profite de cette grenade pour s'enfuir sur le toit et Jack essaye de le rattraper pendant que John court au milieu des flammes. Il est sexy. Ensuite, on revient sur Jack, il court dans un escalier. On revient sur John, il court, il court, il court et il décide de monter dans l'hélicoptère. Il arrive à s'accrocher un peu au dernier moment pendant que ce dernier décolle. Décolle.
Décolle.
Décolle. Et pour pas se faire repérer, il se met à ramper. Hop, là, j'imite quelqu'un qui rampe. Il rampe dans l'hélicoptère et il se met à tirer sur des gens pour rester discret.
La trappe était ouverte, hein, c'est normal. Il décolle,
oui, c'est
avec
ça.
La trappe ouverte.
Pendant ce temps-là, Jack continue de courir dans l'escalier et il arrive sur le toit et il commence à tirer sur Yuri, qui lui répond très gentiment avec son fusil mitrailleur. Blam ! Grosse scène d'action. On retourne dans l'hélicoptère. John essaye de rentrer dans la cabine de l'hélico. Mais c'est fermé. Une seule solution, tirer avec son flingue.
Bah oui.
Mais là, c'est peut-être le seul truc vrai dans ce film, c'est que d'habitude, quand tu tires avec ton flingue, ça ouvre le machin. Là, ça ouvre pas. Bon. Tant pis pour lui. L'hélicoptère se dirige petit à petit vers le toit où a lieu la bagarre entre Yuri et Jack. Et on entend les canons qui commencent un peu à tourner, tu vois. Donc là, je vous cite la réaction de John. Putain, je suis en vacances. Putain. On s'emmerde avec ses vacances. Ça va, on a compris. Au moins, toi, tu as la chance de pouvoir partir en vacances. Pense un peu à nous, putain. Bon. Les tirs commencent de l'hélicoptère. Il se rapproche petit à petit de Jack. Et là, pour empêcher ça, John monte dans un camion. Ah oui, oui, vous vous souvenez quand on parlait de l'hélicoptère plus tôt, on a dit qu'il était giga gros et tout ça. Et bah, il décide de prendre des chaînes, d'attacher l'arrière du camtar à un bout de l'hélico. Et enfin, le moment que tout fan de Die Hard attend avec impatience après 1h24 de film. Yippee-ki-yay, pauvre con, il le dit. Sauf que ça n'en fait pas une bonne scène. Hein, voilà. Bon, il fait la rouler la voiture qui se trouve en suspension à l'arrière de l'hélicoptère, ce qui déséquilibre ce dernier et qui empêche de tuer Jack. On voit l'hélicoptère qui galère à mort. Hein. Il commence à tourner sur lui-même. Il y a l'hélice arrière qui commence à frotter sur le bout du mur d'une enseigne du toit, pendant que Jack se met à courir en slow motion avec les débris qui passent à côté de lui, et là il saute take down sur le russe. Ça, c'est ce qu'on aime dans les films d'action là. L'hélicoptère, il continue de tourner et la voiture de John se prend un bâtiment. Il se retrouve suspendu à une voiture, suspendu à un hélicoptère en train de tourner dans le ciel. Putain, ça c'est de la grosse action, si seulement c'était pas de la CGI dégueulasse. Bon,
Attraper le russe dit à Jack. Ah ah, bien joué, super espion, mais tu m'as eu, mais ton papa sera plus là pour toi. Voilà, parce que gros risque de mourir. Et là, le wineliner qu'on attendait depuis le début, il lui répond simplement, toi non plus. Et le balance en slow motion dans le vide. Voilà, comme dans le 1, Hans Gruber, voilà. Bon, on a compris, ce film fait référence aux autres Die Hard, mais il n'arrive jamais à leur cheville. Bon, papa tourne toujours, il prend de la vitesse, et comme au lancer de poids au JO, il décide de lâcher à un moment. Et il traverse une baie vitrée, l'hélico finit par se libérer de sa voiture au cul, Jack récupère papa dans un étage plein de flammes. On est un peu, c'est un peu con-confufu, mais bon, on continue. À court de munitions dans l'hélico, la fille de Yuri qu'il contrôlait depuis le début décide de s'écraser sur nos deux yonkis. Bon, truc classique, quand t'as plus de munitions, tu prends l'hélico et tu te craches.
Et puis papa, il est mort.
Et puis papa, c'est vrai.
C'est encore une fois la rêve de l'homme de main, du coup, qui se sacrifie pour son chef, pour se venger, ouais. Dernier coup d'éclat, pour tuer le héros.
Donc là, on se dit, c'est fini pour nos deux héros, l'hélicoptère va les écraser. Sauf que, dans leur grande intelligence, et pour la deuxième fois du film, ils décident de sauter du bâtiment. Et tombent par magie dans une piscine. Ils survivent grâce à ça, pendant que l'hélicoptère tombe et s'explose en slow motion, toujours, dans la cour. Bon, là c'est... Pardon, je sens les émotions monter, parce que là, il y a Jack qui cherche John, son papa, dans la piscine. C'est même... Il le dit clairement, il l'appelle papa, mais John ne répond pas. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que c'est la fin de John McClane ? Non, non, il était juste à côté de la piscine, et dans un touchant « Tu m'as appelé papa ?» Non. Tu as dû choper une otite, vieux mec, et oui, c'est ça, hein. Les hommes blancs dans les films américains, c'est des hommes forts, du coup ça ne parle pas de sentiments. Fin de la séquence à Tchernobyl. Il marche dans les flammes, dans les débris, en faisant copain-copain, en mode « Hey, t'as vu ce que j'ai fait à l'hélicoptère ? Ouais, papa, t'es trop fort !» Enfin, c'est un
très bonne imitation de Stallone des Guignols.
Oui,
la grande compagnie.
Tu l'as très bien fait.
C'est moi, tu veux que je parle comme ça ?
Ouais.
Ok. Ensuite, on se retrouve dans un aéroport aux States. Il sort héroïque de l'avion avec la fille ultra contente de retrouver son père et son frère. Puis ça marche en slow motion, en se faisant des regards complices, génériques. C'était le dernier film de John McClane.
Mais moi, j'ai pas vu cette scène.
Moi non plus, j'ai pas vu cette scène.
Moi, ça s'est arrêté, il marche dans les flammes, oui. À Tchernobyl, générique.
Il est à Director's Cut, encore une fois, depuis le début.
Ah.
Bah, moi, c'est la version Disney+.
Ah, c'est ça.
D'accord.
Donc t'as des trucs qu'effectivement, moi, j'avais pas
noté. Et du coup, c'est ça, en fait, tu vois, il marche dans les flammes.
Moi, c'est la version de l'oncle américain de Grégoire qui nous a partagé un lien.
Bah oui. Et en fait, voilà quoi, à la fin... T'as vraiment ce truc-là de... T'as un aéroport un peu classique avec les gros hangars un peu américains, une armée de flics, il y a plein de voitures de flics et ça, des gens du FBI. Et ensuite, t'as vraiment ce truc où ils sortent en slow motion de l'avion. T'as Marie-Elisabeth Winstead qui court vers eux, qui est en mode genre « Daddy, brother !» Et ensuite, ils sont là tous souriants.
Ah oui, donc on la revoit à la fin.
Ouais.
D'accord.
Mais elle parle pas, hein, c'est en slow motion, c'est juste sur de la musique un peu merdeuse. Et vraiment, t'as vraiment ce truc-là où ils marchent, c'est... Le soleil est en train de se coucher ou se lever, donc t'as vraiment une lumière très orange comme ça sur tout le truc. Et voilà, t'as ce truc un peu de regard complice. Et ensuite, générique de fin. C'était le dernier film de John McClane.
Et si je peux juste dire un truc, je sais pas si
vous avez... pauvre con. Putain, arrêtez-moi.
C'est bon, j'ai coupé ton micro, tu peux y aller.
Je sais pas si vous avez laissé défiler le générique ou pas, à la fin.
Non. J'étais trop content que ça soit terminé.
Est-ce que t'as continué à regarder le générique
je m'étais endormi. Je découvre la fin maintenant.
Mais non,
mais t'es endormi. Ah putain.
J'ai skip le générique à coup de plus 5 secondes pour voir s'il y avait une scène post-générique parce que
c'était la mode à l'époque.
Et alors ?
Non, il y en a pas.
Il y en a pas. Par contre, il y a deux chansons, dont une des Stones. Bon, ça passe, mais la deuxième, je la mettrai pas là, mais je l'ai enregistrée, je vous la ferai écouter après. C'est un truc de taré, c'est un espèce de délire d'Aphex Twin en plein très mauvais bad trip. C'est inaudible, c'est un truc que de saturation de cordes et de violons. C'est jamais personne met ça dans un générique de blockbuster. C'est un délire.
Je pense qu'il y a pas grand monde qui est resté jusqu'à la fin du film.
Je pense qu'il y a pas grand monde qui soit resté jusqu'à la fin du film.
Ouais, mais c'est ça.
C'est ouais.
Ça m'a paru très étrange comme choix. C'est pour dire que vraiment les mecs sont trop à l'ouest, quoi. «
Et voilà les gens, c'était Die Hard, belle journée pour mourir comme pour nous. Et maintenant, comme à chaque épisode...
Oh yes.
Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider si on sauve le film ou non. Alors, les gens, Die Hard, belle journée pour mourir, vous en pensez quoi, Grégoire?
Ok, non, Die Hard 5, c'est... J'aime bien les films d'action, je pense que le 1, je l'ai vu, bah, justement pour l'occasion, je l'ai bien aimé, j'ai un très bon souvenir du 4, donc dans ma tête, Die Hard, c'est une bonne saga. Puis il y a le 5. C'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il est chiant, en fait. C'est que à la fin, j'ai fait bon, bah ok, j'ai perdu une heure et demie et je vais devoir le revoir pour prendre des notes, donc je vais perdre 3 heures sur un film que je sais même pas pourquoi ils l'ont fait, qui était le but.
À ton avis.
L'argent, mais oui, mais en fait, vu le résultat, enfin, t'as vu le truc, il allait pas être rentable, il est nul.
Non, bah, il a été rentable. Hein.
Il a été rentable. Enfin, je pense qu'il a été à peine rentable.
Il n'a pas perdu d'argent.
Oui, enfin,
il n'en a pas gagné.
Franchement, là, c'est le dernier épisode de la saison. Il y a des films qui se sont bien plus bidés que ça en termes de box-office.
Bah, oui. Pourquoi est-ce que les producteurs continuent à faire des nouveaux épisodes de séries alors que parfois l'acteur principal en a marre et qu'il faut lui courir après pour qu'il fasse de nouveau un James Bond de plus alors qu'il n'a aucune envie? Bah, c'est la thune.
Ouais, non, bien sûr, mais voilà, enfin.
Et pour le coup, c'est prouvé que Bruce Willis est très attaché à la licence Die Hard, parce que
et c'est prouvé que Bruce Willis est très attaché à l'argent.
Non, ce qui est sûrement le cas aussi. Hein. Alors aussi, mais a priori, il a vraiment un attachement particulier avec Die Hard. Il avait vraiment envie de faire une suite, etc.
L'idée d'ailleurs d'introduire son fils et d'en faire, de créer une espèce de relation de buddy movie avec son propre fils. Le personnage, en tout cas, bah, ça vient de Bruce Willis. Donc cette partie-là du scénario, c'est Bruce Willis.
Parce qu'il ne pouvait pas faire ça avec une fille.
Bah, ça aurait été plus logique de faire ça avec sa fille qu'on voit dans le précédent, effectivement.
Et surtout que dans le 4, le twist de sa fille, qui au début le rejette complètement, mais qui en fait se révèle avoir un caractère similaire à lui, était un super tremplin. Totalement. Pour faire une suite avec elle, ou bah, peut-être qu'elle s'engage dans la police avec lui, ou un truc comme ça... ils avaient un boulevard pour faire un truc cool avec sa fille.
Clairement.
Et c'est trop cool. Ouais.
Et ils ont même en gardant ce même film, mais tu mets la fille dedans. C'est super, tu vois, en mode genre.
Au moins, ça fait un lien.
Non, mais c'est ça, genre, la dernière fois qu'on a vu la fille, ils s'entendaient plutôt bien. Là, on se retrouve, je sais pas combien d'années après, ils sont en mode putain, la fille, elle a disparu, je sais pas où elle est. Tu la retrouves là en Russie, tu te dis genre. Bah putain, faut que j'aille la voir, quoi.
C'est incompréhensible.
Elle est devenue biatch en Russie.
Oui, mais en même temps, tu vois, du coup, il n'y aurait pas eu le twist de oh, on sait que c'est sa fille. Alors que là.
Et très bonne transition, parce que autre point que je trouve négatif à ce film, c'est super stéréotype. Oui.
Non, mais c'est vrai que niveau stéréotype, hein, pour les Russes, c'est. On nage en plein dedans, en fait. Je limite, tu sais, ils ont pris un chapeau. Ils ont mis toutes leurs idées dans des bouts de papier, ils ont mis dans le chapeau, et chaque fois qu'il fallait écrire un élément de scénario ou tourner une scène, ils sortaient un truc en mode « Alors là, qu'est-ce qu'on fait pour les Russes ?»
Pas tout à fait d'accord, parce qu'on
les
voit...
Les filles sont tous des poufs, voilà, c'est
on
bon.
On voit pas un seul Russe bourré.
Ce que tu ne sais pas, Eric, c'est qu'ils sont tous bourrés.
En fait, là où je trouve ça triste, c'est qu'ils sont même pas allés tant que ça dans l'exagération. Genre, c'est stéréotypé, c'est ultra cliché, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient tant que ça insisté là-dessus. Genre, il y a les clichés, mais c'était presque trop. En fait, c'est présenté presque trop normalement. Genre, c'est pas le cliché en mode, regardez, c'est une blague sur les Russes et c'est cliché. Un peu comme ce que Rocky IV est devenu aujourd'hui avec Lundgren, et qui fait If he dies, he dies. Où là, on est. Aujourd'hui, c'est devenu pulp et fun parce que c'est vraiment le stéréotype du russe guerre froide, etc. Et là, on a l'impression qu'ils ont fait du stéréotype slash soft.
Non, mais en fait,
et du coup, c'est encore pire.
C'est juste que ce film, il est mauvais dans tout.
Oui. Voilà.
Même dans ses stéréotypes, il est mauvais. Même, voilà.
Pour moi, en fait, le film est super basique, super cliché, mais c'est même pas tant parce que ça se passe en Russie, parce que ça pourrait se passer aux États-Unis, ce serait pas très très différent. Enfin, tu vois.
Oui.
Et simplement le même film qui se passe aux États-Unis avec le même scénario, le même réalisateur, ce serait tout aussi nul. Moi, c'est même pas le fait que ça se passe en Russie.
Bah le scénario, bah, y a pas grand chose à sauver. L'univers, y a pas grand chose à sauver. Pardon. La colorimétrie, on en a pas mal parlé. Elle est dégueulasse.
C'est moche, putain.
Les acteurs, bon, ils cabotinent comme ils peuvent, mais enfin.
La relation.
Mais c'est pas du cabotinage, hein, parce que. il est.
Il fait le job, Jay Courtney, mais c'est juste qu'il ne marche pas.
Il est monotone.
Non,
John Lewis,
je trouve qu'il a aucune émotion. Expressif.
Ah non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, il fait le job tellement basiquement que justement, il instille rien au personnage. Il est ultra
lisse. Bruce Willis, en fait, il est super narquois, il est cabotin.
D'habitude.
Jay Courtney, il est incapable d'être cabotin.
Je trouve même pas très cabotin. Tu vois, genre,
non, mais il est censé être cabotin.
Il est censé l'être.
Il est censé l'être, mais là, il est au ralenti, quoi.
Bah, il a 60 ans, quoi.
Non, c'est pas que ça.
Oui, non, mais. Tu peux avoir 60 ans et être drôle.
J'aime bien, c'est que les deux personnes lui font. Non, mais.
On va en parler.
Et puis on touche un des trucs qui a fait de pourquoi Piège de cristal était une révolution du cinéma d'action, c'est que normalement, bon, globalement, on avait des avant ça, les films d'action, notamment Schwarzenegger. Bon, on va. C'est pas son plus connu, mais c'est son plus marquant dans ce type de rôle, c'est Commando. Ouais. Et vraiment, Commando, Schwarzenegger, voilà, il porte des troncs d'arbres dans la scène d'intro du film, il a les muscles saillants, il massacre des soldats par centaines avec sa mitrailleuse à une seule main, alors que normalement c'est un truc que t'es censé poser au sol. Bref, voilà, il est invincible, il est mono-expressif.
Tu peux nous en parler de la M60?
Désolé.
Et vraiment, John McClane, c'est un plouc, c'est un kidam, cabotin, mais profondément humain, en fait. C'est ça qui le rend attachant, c'est que c'est...
Et qui s'en prend plein la gueule, il se fait déglinguer aussi à la fin, mais il est crasseux, il saigne de partout, et c'est vraiment, sens qu'il survit, mais encore sur un fil, il boite et tout, c'est horrible, quoi.
Et là, ils ont voulu... Enfin, pour moi, là, son personnage, c'était le même personnage que dans le film Red, qu'il a fait à peu près à la même période, c'est vraiment le... Qui est, pour le coup, drôle, parce que c'est un stéréotype de film d'action avec des vieux. Et son fils... Donc, j'ai oublié le nom de l'acteur parce que
Jay Courtney.
Il est mono-expressif.
Ah ouais, cool.
Et il ne correspond pas au standard piège de cristal, enfin Die Hard.
Il est pas assez sassy, quoi.
Ça, pour le coup, là,
sassy, genre il est.
Le personnage de la fille correspondait mieux. Dans un tout autre genre, Samuel Jackson correspondait beaucoup mieux aussi à ce standard-là.
Faut quelqu'un qui soit expressif, qui ait un peu de répondant en face de Bruce Willis. Et là, c'est.
Et là,
après, il disait pas grand chose dans ce film non plus, hein, Bruce.
Ouais,
Willis,
mais même il pourrait, même physiquement, être plus expressif. C'est vrai qu'il est très.
Le seul truc réussi, c'est vrai que t'as mis le doigt dessus, c'est le fait qu'il est sale à la fin.
Ouais, enfin, du coup, il est pas abîmé du tout, John McClane, alors que normalement.
J'ai dit qu'il était sale.
Ouais, bah voilà. Bah,
mais c'est surtout son fils qui prend cher.
Oui, c'est ça, mais ce qui du coup, casse la logique.
C'est parce qu'il voulait que ce soit la relève.
Ouais,
genre.
Je pense qu'il y a ce côté-là.
Die Hard 6, c'était en mode genre, hé, on fait ce film pour mettre en avant qu'il y a le copier-coller du père avec des cheveux. Et on en fait une autre série derrière.
Cheveux, mais...
Alors, pour les fun facts, en fait, le personnage de le grand méchant, là, Alec, qui au final, bah, il les tabasse à un moment, et puis ensuite, il se fait tuer dans le coffre-fort, en gros. Mais c'est tout, il n'a pas beaucoup de scènes. Normalement, il y avait une grande scène de combat au couteau entre lui et John McClane. Et où John en sortait super blessé, etc. Et je sais pas pourquoi, finalement, ça n'a pas été tourné. Et du coup, bah, le personnage d'Ali, qui était censé avoir un vrai combat pendant le film, ce qui n'est pas le cas, et John était censé être plus blessé.
Je pense qu'ils ont. Alors, je m'avance probablement. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver de cascadeur assez crédible pour Bruce Willis parce que Bruce Willis à ce moment-là il commence à être très fatigué. Hein. On est au début, on est sur le début de la fin. Et
des cascadeurs t'en trouves. Hein,
Non mais
quand tu fais Die Hard 5, tu trouves un
vieux cascadeur. 80 millions de budget pour Die Hard 5, c'est
92.
92,
bah c'est pas énorme. C'est beaucoup, hein, mais.
Non, mais parce qu'il y a dû avoir des cascadeurs pour Bruce Willis dans le reste du film.
Oui, probablement.
Donc, si on n'a pas vu le cascadeur à l'écran dans le reste du film.
Non, mais ils ont tourné le truc et ça rendait mal.
Mais c'est juste des flemmards.
Non, je pense qu'ils l'ont tourné.
Ça n'a pas été tourné.
Ça n'a pas été tourné. Ça a été chorégraphié. Ils étaient prêts à le tourner. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait.
Non, mais c'est ça. Dans le film, on s'en fout de John. C'est le problème. Non, mais c'est le problème aussi. C'est que John, c'est juste le mec chiant. Qui prend jamais rien au sérieux.
Mais en fait, il y a un personnage.
Alors que c'est, tu vois, genre, c'est alors que c'est lui qui a foutu la merde, tu vois. Donc je peux comprendre que ça, que d'un premier abord, on puisse se dire ça va dans la manière dont le personnage peut être un peu impertinent par moment, comme il a été dans les autres films. Mais là, quand c'est la cause du chaos et qu'à aucun moment on a l'impression que il prend ça au sérieux, quoi, tu vois. Moi, ça m'énerve, quoi.
De toute la saison de Reste une pellicule, Die Hard 5 est le pire film, selon moi, de la saison. Tout épisode confondu. En fait, je pense que c'est
un... Est-ce que t'as vu Lolita ?
Voilà, je voulais y venir. T'as pas participé à Lolita, toi ?
Alors, j'ai pas participé à Lolita, mais j'ai regardé Lolita. Le film est pas bien, le film est dérangeant, etc. Et en plus, bon, bah, on en a déjà pas mal discuté par rapport à l'adaptation du bouquin. Ouais. C'est foiré, c'est foireux, etc. Mais... On va dire en termes de mise en scène, au moins, il y a un minimum de recherche, il y a un minimum de trucs.
Il y a quelques trucs qui restent appétants dans le film.
Lolita, en fait, l'intention de base, pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu le truc, ils ont voulu faire un truc, forcément on parle de Lolita, on parle de pédophilie, qui dénonce la pédophilie, et en fait c'est fait par un mec qui a fait des thrillers érotiques dans les années 90 et qui a utilisé Lolita sous couvert de dénoncer la pédophilie, en réalité pour montrer des scènes sexy avec une fille qui est mineure. Donc en fait c'est ça joue sur le fait on dénonce la pédophilie, mais en même temps on va exciter un peu le chaland en montrant les scènes de sexe.
C'est
vraiment totalement immonde.
Le film est pas bien et je l'aurais absolument pas sauvé.
Mais plastiquement effectivement c'est plutôt bien réalisé. Je suis d'accord.
C'est en fait un des voilà, on touche un peu un des trucs par rapport au podcast en lui-même du thème de pourquoi on a choisi ça. Moi j'aime les mauvais films. Southland Tales, je vénère ce film, j'adore ce film, il est très beau, il est raté, mais Sophie. Et j'aime les films ratés. Die Hard 5, c'est probablement un des rares films aujourd'hui dans ma vie où je peux dire, mais en fait, je hais ce film. Je me suis fait chier, c'est mal joué, les musiques sont nulles, c'est mal filmé, la couleur est à chier, ça a gâché un de mes personnages favoris de films d'action. Genre, c'est rare que je dise ça, normalement, je suis très indulgent avec les films, mais là, je ne peux pas le sauver.
Et juste à savoir que le Die Hard 5, c'est le seul qui se base pas sur un scénario écrit au préalable. Le premier, c'est Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, donc le roman. Le troisième, c'est Simon Says. C'est pour ça qu'il dit tout le temps Simon Says, par exemple. Donc là, en l'occurrence, ils avaient toute l'attitude pour faire un truc cool. En fait, ils avaient rien qui les bloquait, entre guillemets. Ils ont quand même réussi à faire une énorme bouse, quoi. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et après, j'ai des petits trucs à vous dire, si vous voulez, sur l'état de santé de Bruce Willis et justifier certaines choses, si ça vous intéresse.
Vas-y, balance.
Parce qu'on n'a pas parlé du producteur, on a parlé du réal et du scénariste, qui sont un peu des crétins, on va pas se mentir. Mais le producteur, c'est Randall Emmett, qui est connu aux États-Unis pour être un producteur véreux, qui a produit une vingtaine d'énormes navets ces dernières années, dont beaucoup desquels a joué Willis. Donc en fait, j'ai lu pas mal de trucs comme quoi il utiliserait Willis, en fait, pour s'engraisser un peu sur son dos et rembourser certaines de ses dettes. Il l'aurait même accusé, enfin, il est même accusé d'avoir obligé Willis à jouer dans certains films pour éponger ses dettes. Donc il y a vraiment un truc où il abuse de la faiblesse de Willis, qui est donc malade, et sa famille l'a annoncé officiellement en 2022 en disant qu'il prenait sa retraite, en parlant d'aphasie, et en 2023 ils ont parlé de démence frontotemporale. Donc c'est une maladie neurodégénérative incurable. Donc de toute façon, il ne pourra pas s'en sortir malheureusement. Et les spécialistes pensent qu'en fait, ça fait plus de 15 ans que c'est le cas et qu'il le sait. Et que du coup, en fait, il aurait enchaîné tous ces énormes bides en fait, pour remplir les caisses à mort. C'est-à-dire qu'il se faisait payer des fois des sommes gigantesques, genre des fois 1 million pour 4 jours de tournage, juste pour mettre de l'argent de côté, notamment pour sa famille, parce qu'il se sait condamné quelque part. Donc a priori, ça fait 15 ans qu'un peu tout le monde sur les tournages avec Willis sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Notamment, ça fait des années qu'il ne tourne plus sans oreillette. Il se fait souffler ses répliques à l'oreille, et il a même mis en danger certains de ses partenaires sur un film en 2020 où il était censé dire une ligne avant de tirer à bout portant à blanc, et il l'a pas fait, et ça a mis vraiment une sale ambiance quand même sur les tournages. Mais les producteurs ont demandé à ce que ça ne s'ébruite, et ce qui expliquerait aussi son aphasie, sa quasi absence d'expression en fait dans le film, parce qu'il oscille, je suis désolée, mais sa tête c'est entre la constipation et le début d'AVC, hein, clairement Bruce Willis dans tout ce film, et il a l'air hyper perdu et ultra froid, et du coup il a plus du tout, comme disait Eric, ce côté un peu sassy, un peu cabotin qu'on adorait de John McClane. Et c'est probablement dû malheureusement aussi au début de sa, enfin même à la fin de sa maladie, parce que ça fait assez longtemps qu'il est malade, quoi. Et là, effectivement, ça devient un espèce de salon ou de farci, comme disait Gibouat tout à l'heure, alors que c'est pas du tout le McClane qu'on aime, quoi.
Bah, moi, c'est un peu pour ça que j'avais dit aphasie en mots pour décrire le film, parce que même si c'est un truc qu'on a découvert au final plutôt récemment par rapport à sa carrière, quoi, en fait, c'est pour ça moi, que je trouve que le film, tu vois, genre, il se rappuie sur quelqu'un qui est pas forcément capable de tenir ce truc-là. Il y a un peu ce côté de. C'est ça, quoi, d'essayer de prendre le plus possible de ce qu'on peut de cet acteur. Et alors que, voilà, c'est sûrement pour ça, comme tu dis, que, au final, dans le film, il a pas du tout de charisme et il arrive pas à sortir vraiment quelque chose. Parce que quand tu peux te reposer sur rien, mais que sur lui-même, et qu'il était pas forcément en état d'être lui-même à fond, tu vois, bah, au final, il y a rien qui permet de soutenir et de faire en sorte qu'on passe à côté du fait qu'il pourrait être un peu en galère, quoi, lui-même, dans son côté perso, quoi.
Carrément.
Et c'est triste.
Ouais, je trouve ça très triste. Moi, je trouve ça très. C'est pour ça que ça me fait assez mal de voir ce film, parce que c'est vraiment l'archétype du film qui est là pour renflouer les thunes, comme à l'époque où Nicolas Cage enchaînait ses grosses merdes juste pour payer ses dettes. C'était triste, quoi.
C'est faux, Nicolas Cage est un fabuleux acteur. Ouais. Mais pour le coup, Bruce Willis, dans cette période-là, il fait quand même Red, qui est quand même un chouette film. Alors, Red 2, je suis plus mitigé dessus, parce que là, on sent qu'il est. Là, c'est vraiment la fin de la fin de la fin. Il y a quand même quelques trucs assez sympas.
Ouais,
il y a Moonrise Kingdom aussi, qui est un peu avant.
Ouais, après. Bon.
Looper, c'est avant.
C'est en gros Looper, c'est à peu près la période de Die Hard 4, donc c'est vraiment avant que ça
c'est
devienne
2010,
la déchéance,
je crois, un
quoi.
Comme ça, ouais.
Ouais, il a décliné assez rapidement.
Ouais.
Bah ouais, le problème c'est qu'on sent que c'est un film qui a été fait absolument sans passion par personne dans le projet. Et Jay Courtney, c'est un mauvais casting pour le fils de McClane. Il est pas suffisamment expressif pour ça. Et non, mais il y a beaucoup de problèmes à plein de niveaux. Ça essaye d'être un film d'espionnage, mais ça a jamais été vraiment un film d'espionnage. Et le problème, c'est qu'il y a aussi aucune implication dans le premier. Dans le premier, il y a sa femme qui est prise en otage. Dans le deuxième, elle est aussi prise en otage parce qu'elle est dans un avion qui risque de s'écraser.
Parce que c'est une femme.
Dans le troisième, il y a un peu une histoire de vengeance. Enfin, à chaque fois, il y a un truc qui explique pourquoi est-ce que McClane continue à être impliqué dans l'histoire, dans l'action. Pourquoi est-ce qu'il doit continuer alors que, a priori, il y a aucune motivation pour continuer, pour que le spectateur aussi. Et c'est ce que je disais, il y a des fois où qu'est-ce qu'ils vont chercher comme MacGuffin, ils sont dans un pays, ils connaissent pas le pays, mais ils veulent essayer d'empêcher un dictateur d'arriver alors qu'ils connaissent absolument pas la langue ni quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, et tout est comme ça en fait. S'ils avaient fait juste en sorte le truc méga super cliché, mais qu'il y ait un de leurs potes ou un membre de la famille qui soit kidnappé par un méchant russe quelque part, là tout de suite on était dans un truc archi rebattu, mais au moins il y avait une motivation. Là c'est vraiment, on se demande pourquoi est-ce qu'ils vont d'une scène d'action à une autre, et pourquoi est-ce qu'ils décident pas juste de prendre une bagnole et d'essayer de rentrer dans un autre coin d'Europe pour pouvoir ensuite reprendre un avion vers les États-Unis. Enfin, c'est vraiment. Oui.
Et puis 2013, le film 2013, ouais, hein, ouais, qui glorifie l'interventionnisme américain. Puis vraiment en mode, bon bah son fils il a une mission, lui il pose zéro question parce qu'il est en mode, ok fiston, faut que je refasse les liens avec toi, je vais te faire confiance de ouais. point.
Genre, mais tu vois,
parce qu'il a des armes nucléaires.
Même en mettant complètement de côté le côté géopolitique débile. Une bonne scène d'action, tu t'es capable par exemple sans arrêt, quand c'est bien fait, de voir où sont les différentes personnes, dans quel sens va l'action. Il faut que ce soit toujours lisible et comprendre les intentions de chacun. Il faut que ce soit une histoire justement qui soit racontée dans l'action. Il tire sur Bidule, on va jouer sur la focale sur Bidule pour faire comprendre la tension. Il envoie un truc, il réagit, et il y a aussi il faut que ce soit une sorte de dialogue avec un enjeu. Là, mis à part des clichés qui bougent les uns devant les autres comme des marionnettes, il n'y a rien, quoi.
Bah, c'est pour ça que d'ailleurs le genre action classique, comme on a pu grandir pour certains d'entre nous avec, a un peu disparu, et qu'au final la seule saga de film qui continue, bien que le dernier opus soit pas terrible, vraiment pas terrible, c'était Mission Impossible. C'est une licence qui a réussi à toujours se dépasser un peu dans l'action, et même dans l'histoire du film d'action, je trouve qu'il tente des trucs que t'as jamais vu ailleurs. Mais le problème c'est que c'est un peu les seuls dans vraiment ce genre. Ouais. Très classique, qu'on continue là-dedans, parce qu'aujourd'hui le film d'action c'était le film de super-héros.
Oui, c'était plus du film de cascade, quoi.
Ouais. T'en as quelques-uns quand même, genre Time and Tide, etc. Mais bon, c'est.
Et ce qui complique aussi le plot, je trouve, à suivre aussi, c'est la multiplication des méchants. T'as pas de méchants emblématiques seuls, t'en as quatre. T'as Victor, Irina, Alik et Yuri. Ça fait beaucoup quand même. Non seulement ils sont pas intéressants, et en plus il y en a mille fois trop. Et au fur et à mesure, tu les découvres, en plus, tu sais plus qui est vraiment gentil, méchant. Enfin, franchement, je trouve ça manque.
Mais si, le film
ça
est très clair là-dessus. Tous les Russes sont méchants.
Ah oui, c'est vrai, c'est
tout. Non, mais c'est aussi que t'as trop de retournements. Le fils, il fait semblant d'être un meurtrier, ouais, mais en fait, il bosse pour la CIA.
C'est trop de twists.
Irina, elle fait semblant de trahir son père, mais en fait, elle l'a. D'être amie avec son père, mais en fait, elle l'a trahi. Mais non, le mec emprisonné, il fait semblant d'être gentil, alors qu'en réalité, il était méchant. Enfin, ça fait trop twist aussi.
Mais c'est pas une question qui en est trop, c'est une question qu'ils sont d'une banalité, mais.
Oui, c'est mal amené.
Sans fin.
C'est mal branlé, quoi.
Au-delà de ça, tu vois, genre, tu te dis, genre, ah tiens, le russe qu'on suit depuis le début, qui a les ogives nucléaires, ah en fait, il était méchant. Tu sais, c'est pas étonnant, quoi, tu vois, genre... À la limite, la fille aurait buté le père pour récupérer les ogives, j'aurais fait genre...
J'avoue, ça
aurait putain, en fait, elle, c'est une vraie méchante, tu vois, genre, elle peut tuer son père pour récupérer des...
De la thune, ouais.
C'est ça, quoi. Alors qu'au final, tu vois, genre, tout est convenu, tout est attendu, et y a rien qui étonne à aucun moment, quoi.
Et toi, Victoria, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, déjà, il faut savoir, la saga Die Hard est une saga, comme je l'ai dit, qui ne me fait ni chaud ni froid. J'ai regardé... Pour me mettre dans le contexte du 5, je me suis dit, allez, je vais regarder les 4 premiers.
Ah ouais, bravo.
J'ai regardé le premier, je me suis fait chier. Non, je voyais objectivement parlant ce qui faisait de ce film une réussite. Vraiment, je le voyais. Mais vraiment. Mais le truc, c'est que moi, ça ne m'a rien fait. Mais j'ai un problème en général avec les films d'action. Je déteste les James Bond. Je n'ai vu aucun Mission Impossible. Peut-être le premier, je me suis fait chier devant.
Pardon.
Donc vraiment, j'ai, voilà, hermétiquement parlant, je suis pas un public très facile pour les films d'action, mais ça m'empêche pas de reconnaître leur qualité. Et je voyais effectivement dans le Die Hard 1 tout ce qui faisait que ce film était devenu un classique. Donc comme vous avez cité effectivement les petites techniques du fait de passer par l'aération pour pouvoir s'en sortir, qui était innovant, le héros qui à la fin, s'il a pas un bras qui lui manque, c'était quand même très très innovant, mais vraiment des choses comme ça. Mais je me suis emmerdée. Le 2, pareil. Le 3, objectivement, mais pareil. Voilà. Vraiment, hermétiquement, ça ne marche pas. Et là, le 5. Le 5 est arrivé et il a enfoncé tout. Et là, vraiment, que ce soit objectivement parlant, subjectivement parlant, j'étais à non, c'est nul. Pour tout ce que vous avez cité, il n'y a rien de nouveau qui est tenté. Les méchants sont tous des stéréotypes, sont mal gérés, sont mal écrits. Et il y a tellement de twists qu'à la fin, ils n'ont aucun intérêt. John McClane est à la ramasse et Bruce Willis, par rapport à ce que tu as cité, Elisa, ça se voit direct. Le fils, c'est un paillasson, aurait plus d'expression à côté de lui. Il n'y a rien à relever. Et quand je dis que je me suis endormie au générique de fin et que vous m'avez fait découvrir la fin, c'était vrai. En fait, j'ai vraiment tapé une sieste à ce moment précis.
Avant le générique, plus. Donc, puisque tu n'as pas vu la fin.
Ah oui, avant le générique, oui, tout ça vous me l'avez raconté, du coup je t'ai... D'accord, super. Et
hier j'étais pas si fatigué que ça, je lance le film et il y a quand même au bout d'un moment où je suis en mode genre oh là là, tu sais, vraiment je regardais mes notes en mode attends, c'est quand la partie que je dois faire, c'est oh non, c'est la dernière partie, oh non.
Il faut savoir ce qui se passe avant.
Ah ouais, c'est ça quoi, mais pareil quoi, genre je me suis, au bout d'un moment j'étais juste devant en mode genre non, je dois aller dormir, et le lendemain je reprends et je me dis ok, bon, enfin ce matin du coup. Et non,
j'avoue que la première fois que je l'ai vu, mais dans mon planning je m'étais calé un moment pour le voir, qui était que je suis rentré du travail pour me poser chez moi et regarder ce film. J'avais presque envie de rouvrir mon PC pour travailler
et pour vous rincer les yeux aussi et puis rigoler un peu, vous pouvez
se
regarder
rincer les yeux.
Ah ouais, oui, bah oui, après ce film.
Non, parce qu'il faut se rincer avec de la Javel, quoi, pour...
avec de l'eau de Tchernobyl, à ce stade.
Oui. Oh. Je vous invite à regarder Yippie de Musical, parce qu'ils ont quand même fait un musical de Die Hard, je ne sais pas si vous le savez.
Ah putain, non, je ne savais pas.
Ouais, disponible sur YouTube. Très, très drôle.
Okay. Incroyable.
C'est
truc,
très, très con. Hein.
Broadway,
Broadway. Ouais. A Die Hard Musical Parody. Yippie de Musical.
Ah, parodie. Ah.
Je trouve des extraits, j'en mettrai peut-être au montage. Why can't you just die? I don't know, Hans. Check the explosives on the roof. La 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 la.
Sur ces bonnes paroles, je crois qu'il est désormais temps de voter. Die Hard, belle journée pour mourir, il s'est craché, mais est-ce que ça mérite tout notre amour, notre tendresse ? Eric ?
Non, je ne le sauve pas.
Thomas ?
Une belle journée pour enterrer ce film de nouveau.
Elisa ?
Non, non et non ! J'aime bien commencer.
Je serais capable de recommander tous les films qu'on a chroniqués dans ce podcast, ne serait-ce que par curiosité, même Cats. Celui-là, non, fuyez-le. C'est le pire film que j'ai jamais vu de cette année.
Grégoire ?
Eh ben écoute, un nouveau plot twist. Non, je le sauverai pas.
Et toi, très chère présentatrice ?
Alors, vu mon amour pour cette saga,
elle sauve pas le premier, elle va pas sauver le cinquième.
Si, complètement, je serais capable de sauver tous les autres.
Mais par exemple, dans le même style, j'avais vu un film d'action avec Taylor Lautner, donc celui qui joue le loup-garou dans Twilight. Je sais plus comment s'appelle le film, j'ai oublié, il est complètement oubliable. Et vraiment, extrêmement oubliable, film d'action de commande, pas terrible, scénario cousu de fil blanc, etc. Mais le fait que ça soit pas Die Hard, bah, j'étais en mode, bon, bah, allez, à la rigueur, c'est juste un mauvais film d'action de série Z, voilà, tu regardes. Et du coup, je pourrais recommander ce genre de film en mode, bon, bah, allez-y, c'est, voilà, vous voulez voir Taylor Lautner dans un mauvais film d'action, allez-y, let's go. Et vraiment.
Oui, c'est ce qui a fait hurler les fans, c'est qu'en fait, ils aient accolé le sigle Die Hard dessus. Ils auraient dit on aurait accepté tout et n'importe quoi si c'était pas Die Hard, mais c'est Die Hard, quoi.
Comme et un peu le même syndrome que, et encore je sauverais plus facilement Prometheus, comme Prometheus l'est avec la saga Alien, tu vois. C'est un peu le même genre de défaut, sauf que Prometheus au moins visuellement il y avait des trucs à sauver,
il avait une idée aussi. Tu vois, oui. Prometheus, t'avais une intention.
C'est ça.
Même si c'est raté, tu vois, genre, au moins le réel voulait dire quelque chose, quoi. Mm.
Bah, du coup, de mon côté aussi, c'est non, je l'enterre, hein, comme je me suis enterré aussi ce jour-là. Donc, Die Hard, belle journée pour mourir. Il méritait donc de se faire démolir. On lui fait un petit bisou d'adieu. Pour ma part, non. Je lui crache à la figure. Et on le termine à coup de pelle.
Meurs.
Si vous voulez, là je suis sur Letterboxd et j'ai regardé les gens qui ont mis 5 étoiles à ce film. Il y a quelqu'un qui a mis 5 étoiles, I'm on vacation.
C'est une blague, c'est une joke.
Oh putain, il y a quelqu'un qui a dit je pense que j'ai un goût atroce ou alors un standard très très bas parce que je préfère ce film au Die Hard avec Samuel Lee Jackson.
Oh non,
ouais. Non, je crois qu'il est juste raciste.
C'est ce que j'avais dit.
De toute façon, les meilleures critiques à Allociné et Letterboxd et tout ça, c'est les critiques une étoile sur des grands films. Ça, c'est un des trucs que Deux Heures de Perdu faisait beaucoup, d'aller lire ces critiques-là, et je suis fasciné par les gens qui mettent une étoile à des films
Jurassic Park, considérés comme chef-d'œuvre.
Ah
oui, non, mais oui. Alors après, des fois, il y en a qui ont des excellents arguments de détester certains films. Hein. Heureusement, tout n'est pas. Si les gens étaient unanimes, ce serait chiant.
Je suis contre la souffrance animale.
Non, mais voilà. En vrai, c'est con. C'est débile comme argument. Mais après, si les gens étaient unanimes, ce serait chiant, tu vois.
Non, mais ce mec qui a cru que c'était pas des animatronics, c'était des vrais
le
animaux.
Le pacte des loups, il n'y a pas de loup dans ce film. Non,
non, mais c'est. C'est voilà, moi je me souviendrai toujours d'un prof que j'ai eu qui disait, qui déteste le Seigneur des Anneaux et qui dit de toute façon le Seigneur des Anneaux, quand il y a, c'est filmé comme un film porno, quand il se passe rien c'est des plans larges et dès qu'il y a de l'action c'est des plans serrés. Et voilà, il nous a sorti ça en plein cours et je suis fasciné. Bon, déjà la punchline est fantastique et après il va me sortir de toute façon le meilleur film d'action et thriller de l'histoire, c'est Miami Vice.
Et dans ce podcast, on termine par une recommandation. Jiboite, c'est quoi ta reco ?
Alors, c'est un film qui est diffusé actuellement dans un cinéma parisien, un petit cinéma d'arrêt d'essai qui est dans le centre de Paris, pas loin de Saint-Michel. Ça s'appelle le Studio Galande. Et il diffuse un film, une comédie musicale assez obscure des années 70, qui était assez en avance sur son temps et qui a pas très très bien marché. Et c'est dommage parce que il y a des super bons chanteurs et chanteuses dans le film. En plus, ça a lancé la carrière de Suzanne Sarandon. Quel grand rôle qu'elle a joué dans ce film. Et ça s'appelle le Rocky Horror Picture Show. Voilà, ça raconte l'histoire d'un couple assez puritain qui ont un accident de voiture et qui se retrouve à se réfugier chez l'habitant local. Enfin, c'est un peu comme le début de Massacre à la tronçonneuse en fait. Bref, voilà, allez voir, c'est chouette, il y a des animateurs qui se mettent devant, etc. Bref, si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez, c'est la blague qu'on fait à chaque fois, on fait partie tous et toutes d'une troupe qui participe à des séances animées de ce film, tous les samedis soirs. On a aussi nos copains qui jouent le vendredi soir, c'est les Panic Babies, nous le samedi soir c'est les Time Slips. Voilà, si vous voulez vivre une séance de cinéma comme vous n'en avez jamais vécu, avec du riz et de l'eau qui volent dans la salle, surtout en été quand il fait 39 degrés, je vous assure que les batailles d'eau, ça fait plaisir.
Enfin tu dis ça, hier je me suis retrouvé quand même avec le dos rempli de riz mouillé qui collait à ma transpiration. Enfin bref, l'eau et le riz c'est bien, sauf quand c'est dans la culotte.
Ça dépend, j'aime bien moi quand ça m'assère.
Dans la shaming.
La petite torgoule au lit là.
Oh, j'adore la torgoule, c'est normand, c'est moi, c'est chez moi.
Sur ces deux proverbes de grand-mère, merci à tous. Si l'épisode vous a... Merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait plein de gros bisous.
Des bisous.
Ciao.
Mais on va pas...
se quitter comme ça. Je pense qu'on va, on doit avoir quelque chose comme 4 heures d'enregistrement. Je sais pas combien ça va donner.
4h09 actuellement.
4h09 minutes 39 secondes.
Mais wow. Ce n'est pas terminé pour autant, puisque on va terminer par un petit jeu. Et on va terminer par un petit jeu qui va être le jeu de, du jeu de mots à peu près.
Oh putain.
Ah
ça, c'est sa spécialité. Il est très fort.
J'en ai préparé une vingtaine. Alors, ça va être un mot sur Bruce Willis ou sur Yippie-Ki-Yay. Donc, en réalité, des jeux de mots avec Willis, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Arnold et Willis, etc. Mon avis, fait le tour. Donc, en gros, ça va être à chaque fois soit Bruce, soit Yippie-Ki-Yay. Est-ce que vous voulez qu'on compte les points ou je fais juste le truc comme
non.
Non, ok.
Si. Non, Thomas.
Il y en a qui sont très faciles.
On sait que c'est Léa qui va gagner de toute façon.
Voilà.
Je commence par un truc très facile. Donc, à chaque fois, il faut donner le nom complet. Donc, vous rajoutez Willis ou vous faites Yippie-Ki-Yay en entier. Comment s'appelle le personnage de Hulk quand il est en humain ?
Bruce Willis Banner.
Voilà, très bien.
J'ai levé la main, pardon.
Ensuite, c'est un personnage de surfeur interprété par Jean Dujardin et il casse les gens. Bah, vas-y, le premier, du coup, je donne pas la parole.
Bruce Willis ?
Bah, non, Bruce de Nice.
Ah, je suis trop teubé.
Alors, c'est des gens qui sont impliqués dans un mouvement de contre-culture. C'est des babacools, ce sont des... Ce sont des...
Yippie-Ki-Yay.
Yeah.
C'est de Yippie-Ki-Yay.
C'est l'ustensile qui permet de récurer les chiottes.
Brosse de... Brosse Willis de toilette.
Brosse à chiottes de Willis, oui.
Brosse à chiottes.
Oh, merde.
C'est donc bon, on cherche bon. Le nom d'un film. Dans ce film, Dieu est joué par Morgan Freeman. Dans le film, Dieu donne ses pouvoirs.
Bruce Willis tout puissant.
Oui. Très bien. Ensuite, c'est un tout petit maillot de bain pour les femmes. C'est le...
Yippie-Ki-Yay
Bikini.
Yippie-Ki-Yay
Bikini-Ki-Yay.
Bikini-Ki-Yay. Ah, celui-là, il était...
Bon,
il est technique.
Facile. C'est l'acteur qui joue dans Evil Dead.
Ah,
Bruce Campbell.
Willis.
Ouais.
Bravo.
Alors, c'est un sport qui se joue avec des patins à glace. Il faut mettre le palais dans le but adverse. C'est le...
Yippie, ok.
Ouais.
Oh, waouh.
C'est le vrai nom de Batman.
Bruce Wayne. Okay. Bruce Willis Wayne.
Ce sont deux frères qui sont plombiers chez Nintendo. Ce sont...
Mario Bruce.
Les Mario Bruce, les brothers.
Ouais. Les frères Mario Bruce. Wayne. Les
Mario
Willis,
Bruce.
Du coup, pardon.
Ça fait un peu, tu sais, les... Dans la forêt, de la jungle. Mario Bruce. Ah, Mario Bruce.
C'est ce que laissent les vaches au milieu des champs.
Des Bruce.
Des bouses.
Brousse de vache, du coup, ouais.
Ça s'appelle Die Hard 5 pour le coup.
Sinon, c'est une marque de coupe-vent, en nylon imperméable.
Yippie-Ki-Yay.
Oui. C'est bien ça.
Bien, oui.
C'est un célèbre acteur de films d'arts martiaux des années 70.
Bruce Lee Willis.
Oui.
Bruce Willis.
C'est un type de drap spécialement conçu pour se mettre autour du matelas. C'est le.
Bruce à l'aise. Yippie-Ki-Yay à l'aise.
Le Draus Willis. C'est le restaurant dans lequel les étudiants vont manger.
Le Bruce Willis.
Quand on dit que quelque chose est tout petit, on dit qu'il rit.
Yippie-Ki-Yay.
Je sais pas. C'est quoi ta réponse, ta vraie réponse à ça?
Rikikikawai.
Il y a plus le mot.
Ça fait longtemps qu'il y a plus le mot de toute façon. Ou que la réponse c'est juste le mot en fait.
Ensuite, on cherche un personnage de littérature. C'est des films pour enfants, mais pour petits enfants, genre à partir de 3-4 ans. Non, alors c'est un petit garçon. Son papa et sa maman, ce sont des ours.
Ah oui, 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 oui. Oui. Petit Bruce
Winnie-Ki-Ki-Yay. Bruce Willis.
Ah ouais, moi j'étais à Winnie-Ki-Ki-Yay, l'ourson.
Petit Bruce Brun, gentil galopin.
Les Indiens d'Amérique, ils vivent dans des tentes qui s'appellent des...
Yippie-Ki-Yay, pourquoi ?
Des tipis.
Des tipis-Ki-Yay, pourquoi ?
C'est vrai, je suis...
Quand tu es sur la route et qu'il y a un bandit...
Arrête, j'ai coupé ton micro encore.
C'est
quand t'es sur la route et qu'il y a un bandit de grand chemin qui te menace avec un couteau pour te voler ton argent, il te dit...
La brousse ou la vie.
Oui.
moi j'en ai une aussi. Comment est-ce qu'on dit quand t'as des riches bourgeois qui vont parier sur des courses de chevaux? On dit que ce sont des courses.
Yippie-Ki-Yay.
Ah, joli.
Pas mal.
J'y ai pensé aussi à l'instant.
Et la dernière, c'est le réseau social où se sont réfugiés les gauchistes qui ont fui X qui s'appelait Twitter
avant. Bruce-Ki-Yay.
Ouais.
Oh, bravo.
Ah, putain, mais j'étais en mode...
Et c'est sur cette superbe conclusion que se conclut cette séance du...
Rocky Horror Picture Show.
Pas du tout. Cet épisode de Rusty Space.
Au revoir.
Ciao, des bisous.
Au revoir.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Je vais en chier au montage.